Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 22e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Car Quest, le détaillant de pièces automobiles. Les deux se ressemblent beaucoup, dans le sens qu'on offre beaucoup plus des morceaux qu'un produit complet et cohérent.
Et c'est vrai.
Comment ça va les gars?
Ben, tu sais, hey.
On essaye.
Ah ok, cool, ça fait changement, j'étais habitué à votre déprime habituelle.
Ah mais il fait chaud,
les bourgeons, les fleurs et tout, petits oiseaux.
Bon, ça a arrêté d'être intéressant. Là.
Les abeilles.
Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Denis Revel.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Salut!
Fait que qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, Dan?
Ouais, ben, je commence ça direct, là, pas de préambule avec une petite punition pour Jeff. Une punition pour manque de précision, là, c'est pas la pire.
Quand même.
Je reviens à l'épisode de 19, je crois, où on parlait du Groovy Run de Ratchet & Clank, qui serait apparu là, pour la première fois dans Ratchet & Clank Future Tools of Destruction au PS3 en 2007. Jeff avait l'air de dire là, que c'était dans les premiers, là, fait que c'était comme pas super clair c'était où.
C'était un peu vague,
puis ben, merci Benjamin là, qui nous a pointé le détail.
Mettre les pendules à l'heure.
Voilà.
C'est important.
Rigueur.
Mes excuses.
À part de ça, Dan.
Ben, cette semaine, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis 10 ans.
Je t'écoute.
J'ai loué un jeu.
Oh, OK.
J'avais une carte de location gratuite en fait au Microplay qu'on m'avait donné quand j'avais acheté ma Wii U. Fait que okay. Autant s'en servir pour aller essayer un jeu. Fait qu'on a essayé Yoshi's Woolly World à la Wii U, qui était pas si mauvais. Au niveau du gameplay, c'est très très semblable à Yoshi Island. Puis ça, c'est pas une mauvaise chose en fait. Là, c'est un bon gameplay puis c'est un bon jeu, mais sans le maudit bébé qui pleure. Fait que bonus. par contre, le jeu est comme pas très long. À moins que tu essaies d'avoir tout à 100%, puis là, c'est fucking ridiculement difficile. Fait que tu sais, c'est comme, tu peux rapidement faire le tour ou te faire chier pendant des millions d'heures à trouver tous les petits bouts de laine qui refont des Yoshi de différentes couleurs. T'sais. Donc, en tout cas, en plus, c'est un peu chiant à jouer à deux. On se pile ses pieds plus qu'on s'aide, mais vraiment.
Fait que, comme toutes les New Super Mario Bros. Là.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est vraiment pire. Parce que les New Super Mario Bros. Qu'on a joué, puis on a quand même apprécié. Là, c'est n'importe quoi. Là. Tu veux pitcher une balle de laine qui sont comme les œufs. Puis c'est l'autre qui la mange d'en face.
Ouais.
Fait que, ouais. Bref, on a loué un jeu. C'était spécial. Mais c'était un enfant. Sinon, je mets ça sur le dos des gars de Trois Bières. Là. Fait que petit Charlotte en même temps. Pierre-Luc, Yannick, je sais pas si vous nous écoutez, mais à cause de vous, j'ai recommencé à écouter la lutte. de la cool. WWE. Là. Dans la catégorie, je mets mon cerveau à off puis je décroche, il n'y a vraiment pas mieux. Fait que ben, merci les boys. Si vous avez jamais écouté Trois Bières, pour les autres, là, c'est un podcast vraiment intéressant avec une prémisse de base assez simple où ils pigent des sujets du public puis qui discutent en buvant de la bière. C'est random à souhait puis très divertissant.
Cool.
Sinon, cette semaine, au niveau vraiment gaming, là, parce que là, ben.
C'est donc bien glorieux, ça.
Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est le même thème de Overwatch. Donc, Overwatch, un petit peu plus d'Overwatch, encore un peu d'Overwatch, puis sérieux, allez, c'est Overwatch, là. J'en parlerai pas plus.
Overwatch.
Sinon, Mathieu va fermer mon micro, là. Ça ressemble un petit peu à ça pour moi cette semaine, en fait. Puis toi, Matt?
Ben, gaming en VR, ça a été beaucoup de HTC Vive et de réalité virtuelle pour moi, comme depuis quelques
semaines. T'es parti en Winnebago pis tout, là?
Exact. Liberté en VR. Et... non, toujours, pour ceux qui auraient du VR, qui sont plus familiers, ben, en HoloPoint, qu'on a discuté, là, qui est mon go-to game, qui est le jeu auquel je retourne tout le temps, sans faute.
Pour qu'elle était quand même pas trop mal.
38e. Ben, c'est sûr que c'est un monde de early adopters. C'est les premiers qu'ils ont achetés.
Fait que vous êtes 39.
Non, il y a quand même une trentaine de mille de copies de vendues pour HoloPoint. Mais cela dit, sans tomber dans des mauvais préjugés ou des clichés, on est quand même des maniaques de technologie puis de gaming. Puis je suis pas sûr que tout le monde est si en forme que ça pour jouer un jeu comme HoloPoint. Fait que je suis peut-être dans une bonne
Pourquoi
position.
Pourquoi il me regarde quand il dit ça?
Je viens de regarder le mur, là. Mais
je le gâche!
Fait que ça a été ça, puis j'ai beaucoup aussi avancé ma collection. J'ai fait des achats. Je spoil rien parce que c'est sûr que je vais en parler plus tard, mais beaucoup de belles additions à ma collection dans les deux dernières semaines. Puis toi, Jeff?
Ben, un petit peu à l'image de Danny, j'ai fait Overwatch. Merci, Danny. Mais on s'en parle tantôt, de toute façon. Mais cette semaine, je pense que le plus de gaming qui s'est fait à la maison en dehors de Overwatch, c'est... c'est mon fils, en fait. Mon petit garçon de 3 ans et demi qui commence à découvrir les jeux vidéo. J'ai une petite anecdote là, intéressante avec ça, c'est qu'il joue sur mon téléphone principalement, ou sur le gros téléphone, aussi connu sous le nom d'un iPad. On appelle ça un gros téléphone quand on a 3 ans. Donc, il joue à des... Puis c'est impressionnant. Sérieusement, il joue à Minions Rush, l'équivalent des Temple Run, des affaires-là avec, avec les Minions. Donc, évidemment, c'est plus de son âge. Quand même difficile comme jeu. Puis je ne m'attendrais pas à ce qu'un petit garçon de 3 ans... performe très longtemps.
Encore en train de vanter son fils.
Non, mais c'est plutôt une observation de la jeunesse d'aujourd'hui. Là.
D'accord.
Mais je suis sûr que...
Pierre Lalonde.
Jeunesse d'aujourd'hui.
Mais il joue beaucoup avec ma blonde. Ils s'assoient ensemble sur le divan, puis il pitonne sur le téléphone, puis il joue, puis il montre ce qu'il fait. Mais j'étais sûr qu'elle avait joué, parce qu'il est rendu niveau 7, niveau 8 dans le jeu. Puis là, je le remettais à niveau 1, je lui redonne le téléphone, en disant que tu seras plus capable rendu niveau 7. Mais le petit Vera, c'est lui qui se rend à ce niveau-là. C'est impressionnant.
C'est ta blonde qui est pas capable. Hein?
Non, ça c'est ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vraiment impressionnant. Puis ce qui est drôle, c'est que cette semaine, il passe pas de mon bureau. Puis il y avait mon Game Boy Advance sur le bureau. Fait qu'il m'a demandé, il dit, papa, c'est quoi ça? Fait que j'y explique, mais c'est pour jouer à des jeux. Mm-hmm. Fait qu'il dit, je vais essayer. Mm-hmm. T'es-tu certain que tu es capable de jouer à ça? Mais puis j'avais Zelda. Donc,
Link to the Past. Ouais. Hein?
Fait que c'est ce jeu qu'il y avait dedans. Mais je le rouvre, j'y monte. J'y explique avec les flèches, tu peux te déplacer. Puis j'y monte le bouton pour donner des coups d'épée. Je dis, promène-toi, puis il attaque les méchants. Fait qu'il commence assez rapidement, il a compris le principe de se déplacer puis de donner des coups. Bon, il fonce des ennemis.
Pour vrai, c'est impressionnant.
On a un manque de synchronisation, puis c'est correct. Mais ce qui était super drôle, mais vraiment mourant, c'est que quand il y avait des menus qui apparaissaient, quand il y avait du texte dans l'écran ou des choses comme ça, il touchait à l'écran avec son doigt. Ah. Ben oui. Là, il venait me voir et me disait « Papa, il marche pas. »
Papa, faut que tu payes 2$ pour débarrer le reste du jeu.
Fait que
entendu souvent aussi les écrans pas tactiles puis les kids qui comprennent pas. Quand...
Ouais, c'est plus à ça que je m'attendais qu'il y a une compréhension des contrôles traditionnels.
Les contrôles, c'est quand même pas trop mal. C'est vraiment lui, ce qui ne compute pas dans sa tête, c'est que l'écran, on peut pas y toucher, ça fonctionne pas. Mm-hmm. Je trouve ça drôle. Mais je suis un peu fier, c'est mon petit côté, ma fierté à moi-même qui joue à des jeux Nintendo puis qui me demande d'écouter Star Wars. Sinon, j'ai fait une découverte, là, je tiens à faire mettre les choses au clair. J'ai pas cherché ça, puis j'étais habillé quand j'ai découvert ça. C'est important. C'est important de mentionner que j'étais totalement
ça commence
vêtu
bien.
Quand j'ai parlé de ça, quand j'ai découvert ça.
J'espère quand tu t'es parlé aussi.
Ça dépend ce que vous préférez. Les gars. Ça s'arrange.
On prend une pause.
On boit 2-3 autres bières, puis on s'en reparle. Non, mais en fait, c'est une parodie. Donc, un film pornographique qui parodie le cinéma de notre enfance.
Ça commence bien.
Avec un titre. En fait, le film s'intitule « 10 Inch Newton Ninja Turtles ». Donc, pas de teenage, je viens 10 inch dans le sens de 10 pouces. Le synopsis du film, c'est que c'est un garçon, un homme, qui était horny, excité, en fait, qui travaille dans une centrale nucléaire et dont la semence a tombé dans les égouts et a touché aux tortues, ce qui lui a permis de grossir. Et particulièrement
si
je vais le dire en anglais parce que c'est écrit en anglais puis la traduction ne ferait pas honneur, mais c'est écrit causing them to grow particularly in their lower shell area.
Oh.
Le mutagène.
Évidemment, comme dans toutes les parodies de films comme ça, le nom des personnages est ce qui est le plus intéressant dans le contenu.
On t'écoute.
Étonnamment, April O'Neil n'a pas changé de nom et s'appelle toujours April O'Neil. Et joué par l'actrice April O'Neil.
Ça, je me dis.
Actrice, en tout cas.
Ouais, ouais. Et
elle travaille pour le Channel 69.
C'est sûr.
Écoute, il y a des Oscars pour meilleurs scénarios qui se perdent. Là.
Quand on pense à Shredder, le fameux ennemi, qui s'appelle ici Spreader, et qui est le chef du Foot Job Clan.
Pourquoi on aurait parlé de ça?
Avec son ennemi, son némésis là, de tous les temps, le maître qui a appris aux tortues là, tout ce qui est toute leur connaissance et leur maîtrise des arts martiaux, qui s'appelle Master Sphincter. C'est un peu de faible goût. Mais les 4 tortues ont des noms assez intéressants. Par exemple, on parle de... Le premier, c'est le meilleur.
C'est le pinacle.
Ça donne tout son sens au film. Leonard Don. Michelangelo. Raphaëlus.
Si je t'en ai.
Et Donatello. Évidemment. Et sans oublier celui qui se bat toujours à leur côté, là, Casey Bones.
Alors, on va mettre le trailer sur les médias sociaux.
Je ne penserais pas. Quand j'ai vu passer dans les notes le titre, je me suis dit, c'est drôle, il parle des Ninja Turtles. J'avais comme un. Je pense que c'est encore plus drôle maintenant qu'on parle de ça. J'ai dit que j'écoutais de la lutte, mais oui, le dernier pay-per-view était commandité par Teenage Mutant Ninja Turtle, Out of the Shadows. je trouve que c'est encore plus drôle finalement de faire le lien.
C'est... Bon, c'est les 10 Inch Mutant Ninja Turtles pour enrichir vos fins de soirée.
Je sais pas.
Selon le magazine Variety, le projet d'Ubisoft de faire un film basé sur The Division irait bon train, avec l'acteur Jake Gyllenhaal maintenant attaché au projet comme acteur et producteur. Espérons que le film saura efficacement reproduire la sensation de tirer dans le dos des gens passifs en pleine rue sous l'œil approbateur du gouvernement américain et bien sûr, des légions de fans espérant voir le pauvre citoyen abattu dropper du bon gear.
Il doit y avoir plein de bugs dans ce film-là. Ça doit glitcher. Puis...
Ça a l'air qu'il y a un line simulator aussi pour avoir les billets.
Ah, on a le retour ici d'un micro-segment. Et oui, du nouveau dans le Konami Watch. Suite au succès du plus récent opus de la série Metal Gear et malgré le départ de Hideo Kojima, le créateur de la série, Konami cherche toujours à faire plaisir à ses légions de fans. C'est pourquoi ils ont annoncé cette semaine la machine de pachinko de Metal Gear.
Ooh.
Malheureusement, celle-là ne sera pas érotique comme celle de Castlevania qu'on a parlé la dernière fois.
Hey les gars.
N'en déplaise aux 10 Inch Mutant Ninja Turtles. Certains diront que de regarder une petite bouboule tomber dans une machine de pachinko n'est pas vraiment un jeu de Konami, même si le tout est affiché sur un écran de 32 pouces, en full HD, avec plein de cinématiques dérivées de Metal Gear Solid 3. Mais est-ce que c'est vraiment si différent? Vous n'avez qu'à imaginer que la petite bouboule est Solid Snake, que les obstacles sont des endroits pour vous cacher et que les zones d'atterrissage en bas sont les objectifs et que l'argent que vous mettez dans la machine est le reflet d'à quel point vous êtes affamé pour un jeu de Konami qui n'est pas de la scrap. Bref, l'expérience Konami moderne est intacte. on a de quoi d'un peu différent cette semaine? on a une entrevue. Vu que ça fait plusieurs fois qu'on parle de Two Player Mode, les deux gars de la Nadière qui font de la vente de jeux rétro et qui vont bientôt ouvrir une arcade dans le coin de Joliette, là, on a décidé, une fois pour toutes, de prendre le temps de s'asseoir avec eux autres puis d'en parler pour arrêter de casser les oreilles au monde qui sont pas de la région avec Joliette et Two Player Mode. Donc, on a décidé d'inviter un des deux gars, Steve Corfield, pour qu'il nous parle de leur projet. Alors, on a fait l'entrevue la semaine dernière puis on vous en donne les highlights qui commencent comme suit. Pour ceux qui seraient moins familiers justement avec Two Players Mode et encore plus le projet de l'arcade, parle-nous un peu de comment tu t'es rendu là avec Two Players Mode, Steve.
Ah mon Dieu, ben ça date. En fait, le projet Two Players Mode est né en octobre 2014, quand que moi et Yannick on s'est concerté pour fonder ça, ce qu'on a appelé Two Players Mode.
Puis à l'origine, c'était... C'était quoi l'idée au départ là, quand ça a été Two Players Mode?
Quand Yann m'a approché, c'est parce qu'il voyait tout ce que je faisais au niveau de la vente de jeux, parce que ça faisait longtemps que j'en faisais. Mm-hmm. Puis lui, il m'a approché avec l'idée d'hey, on pourrait comme s'allier avec nos espèces de forces complémentaires, puis pousser ça plus loin. Puis j'ai fait comme. Oui, j'attendais comme d'avoir l'opportunité de te rencontrer quelqu'un qui m'amènerait ailleurs. Puis, fait que c'est tout bonnement comme ça. On dirait que les as, ça sont. Se sont croisés ou se sont alignés, en fait, plutôt. Parce que des as qui se croisent, c'est pas bien, bien bon.
C'est ce qu'on appelle un Big Bang.
Ouais. Est-ce que ça annonce la fin du monde, d'habitude.
Enfin, c'est peut-être Big Bang de Two Players Mode, là, mais bon. Fait que tout ça pour dire qu'il est venu me voir, il m'a proposé ça. J'ai dit, hey, certain, j'embarque. Puis en un peu moins d'un an et demi, on s'est catapulté dans la vente de jeux. On a cherché pour des machines. On a trouvé des fun, des rares. Puis là... Le 10 et 11 juin prochain, ben on se lance puis on invite tout le monde à venir être avec nous autres.
Donc, quand on parlait des highlights, vous avez pu remarquer qu'on a coupé tout le monde à part Steve.
Ben, c'est sûr, nous autres, on parle pendant une heure et demie ou deux semaines. On fait le tour assez vite un moment donné. Puis, ben, ce que vous ne saviez pas aussi, c'est que Steve est assez familier avec l'émission. Fait qu'il en a profité pour se gâter un petit peu.
C'est donner une punition à Danny.
Yeah!
En fait, Danny, t'avais annoncé comme quoi qu'on serait qu'on ouvrait à Notre-Dame-des-Prairies.
Ouais, non, c'est.
Mais non, c'est pas Notre-Dame-des-Prairies, c'est Notre-Dame-de-Lourdes.
C'est Lourdes, hein.
Exact. Parce qu'à Notre-Dame-des-Prairies, on n'aurait pas pu. Parce qu'il y a une légifération qui fait en sorte que toutes les salles d'amusement, blablabla, le classique là, qu'on entend parler.
J'ai entendu parler de ça.
Ouais, ça a dit quelque chose, hein.
Ouais, mais ça, c'était à cause de. Dans ce coin-là, c'était à cause, il y avait eu la... quand le club de bridge, là, ça avait fini en guerre de gang, c'est il y avait clair, le club là. De bingo. Là.
C'était en plein ça.
Des morts, là. Il y avait des touffes de cheveux blancs, des moumoutes puis des dentiers partout.
Des marchettes en feu.
Ah, ben, il y avait les grey dans un coin puis les white le bord.
Les petites boboules blanches.
Exact.
Les petites boboules grises.
Le bilin en crème contre le bilin en crème.
Il y avait des tags de club de marchettes.
Je les mettais. Ah, oh, j'ai chaud avec ma petite cuirette. On devrait être.
Fait que là, c'est l'autre bord de la limite de NDP.
Ben, c'est tout de suite tout près, je pense, si je me trompe pas. Là, c'est l'étoile du Nord, l'espèce de restaurant, puis la rivière, je pense, qui sépare Notre-Dame-des-Prairies de Notre-Dame-de-Lourdes. Fait qu'on est vers Notre-Dame-de-Lourdes.
Encore une fois, pour ceux qui sont pas de Joliette, on est vraiment désolé parce que pour vous autres, c'est tout Joliette. Puis vous avez pas mal raison.
Tout à fait.
Ben, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait ça à Joliette, dans le Grand Joliette en tant que tel, parce que c'est très facile pour s'y rendre au 131. Tu t'en vas directement là-bas.
Qu'est-ce qu'on a comme adresse officiellement?
2911. Route 131.
Au 29 ouais. 11, route 131, à Notre-Dame de
Lourdes.
Ben, il veut jouer aux punitions, là.
Oh.
L'Étoile du Nord, c'est une auberge à Saint-Donat. Le restaurant dont il parle s'appelle l'Étoile 131.
Encore une fois, tout le monde s'en calisse.
Je le sais, mais tu sais.
Fait que, bien sûr que la Retro Arcade Two-Player Mode, c'est avant tout une arcade. Donc, je vais vous donner la liste des machines qui vont être disponibles à l'ouverture. On en avait parlé pendant l'entrevue, mais c'est un petit peu n'importe où. Fait que je vous fais le décompte. On a une machine de Miss Pac-Man qui va être là. Arkanoid, Super Mario Versus, Gauntlet Legends à 4 joueurs, Dungeons and Dragons, Tower of Doom et Shadow over Mystara, qui sont les deux jeux de cette série-là. Tetris, Point Blank 2, le jeu de tir compétitif.
Yes.
Et une autre machine qui a une signification spéciale pour Steve.
La fameuse. En fait, quand j'ai su qu'on allait faire ce projet-là, c'est à cause de cette machine-là. Je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est quand même drôle. Je suis le genre de gars qui croit qu'il y a des affaires qui se passent dans la vie qui sont propres à rien, puis ça fait un peu partie de ça. La fameuse machine de Tron. Exact. C'est un artefact. En fait, l'histoire, c'est deux semaines avant, j'allais, si je ne me trompe pas, à Arcade Montréal, justement. Shout out à eux autres qui sont des gars bien géniaux. J'étais chez mon cousin, on attendait un petit peu, j'attendais après, etc. Je pogne le PS4 à son coloc. Netflix, je gosse, je pars Tron. Je fais juste fast-forwarder jusqu'à temps qu'il arrive dans son arcade. Puis là, je la regarde aller, je fais comme. Il y a tout le temps comme un petit en dedans de moi, un petit pincement qui fait « Oh my God, je veux ça. » Puis là, j'y compte à son collègue. J'ai dit, à un moment donné, là, ça va être comme, ça va être chez nous. Ça va être quelque chose qui va être comme ça. Je veux un jour allumer les lumières puis que ça allume dans le même principe. Puis deux semaines après, j'envoie justement à Yannick une annonce j'ai trouvé sur Kijiji qui était sur la machine de Tron, mais qui était overpriced. C'était genre, ça avait plus de sens, là. C'était genre 3 000$. Puis tu sais, c'est pas le genre de budget qu'on a pour acheter des machines. Fait que je laisse ça entre les mains, puis Yann, justement, je fais une parenthèse. Tu sais, c'est je pourrais dire, c'est mon coach pour mon petit. Mon petit Little Mac que je suis, tu sais. C'est le Dr. Light du Mega Man, tu sais.
Ah bon, c'est bon.
Fait que, tu sais, c'est.
Je m'en allais dire, est-ce que Yann te fait souvent des massages rapidement pour te remettre sur pied?
Non. Okay, il me donne une claque, ça me remet pas mal plus rapidement sur pied que d'autres choses.
Il fait du vélo avec un saut de jogging rose.
Non, c'est moi qui ai le saut de jogging rose.
C'est vrai, lui fait du vélo.
Oui. Mais oui, je fais du jogging en saut rose.
Ah, c'est...
avec un petit peu de désarroi dans la voix, juste. Oui.
Fait que tu sais, la parenthèse pour dire que si Yann m'avait pas croisé à ce moment-là, probablement que le projet Two Players Mode ne serait pas où il en est rendu aujourd'hui. Fait que tu sais, ça c'est mon partner, mon brother, puis vous allez voir qu'on est très très semblable au niveau de comment qu'on veut diriger ça. Il n'y a pas de mots pour qu'est-ce qui s'en vient, parce que moi je suis bien ému de ça qu'on peut ouvrir ça, puis je pense que je le réalise pas encore que le 10 puis le 11 s'en viennent, puis que je vais comme faire ok, là c'est real, Fait que je pense qu'encore, je le réalise pas totalement. Je suis pas encore fou. Fait que c'est pour ça que mais, ça va venir.
Mais avant que tu sois trop émotif,
oui.
Fait que là, il y avait une machine de Tron à 3 000.
Oui, exactement. Ouais, ouais. Les gens de là-bas déménageaient. Fait qu'à un moment donné, ils ont Yann, qui est le mathématicien du groupe, c'est le gars qui est fort avec les chiffres, puis moi, je suis la grande gueule. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis
ici. Fait qu'elle était chez quelqu'un.
Oui, oui. C'est quelqu'un qui l'avait dans son sol. Ça faisait genre 20. Ouais, je sais pas si c'est 20 ans.
Un certain Flynn, puis le père était disparu. Ouais. Il savait pas trop.
Il voulait s'acheter une moto sans l'air. Fait que ça donne qu'on réussit à l'avoir à un bon prix. Ça va chercher. Je l'embarque dans le trailer, puis je suis capable de bien raide. Fait que là, je dis, OK, à cette heure que j'ai cette machine-là, ça veut dire que le projet Two Players Mode, l'arcade, va exister.
Il va de l'avant.
Ah oui, exact, parce que en disant... Hey, un jour, je veux ça. Ben, la machine de Tron, si dans le film Tron, c'est pas la plus dure à avoir, c'est laquelle? C'est bien celle du film. Fait en l'ayant, on dirait que la vie me dit, hey, let's go, gang, on y va. Fait que c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, on se trouve une place, on se trouve un local, bon, on rouvre.
Puis ça sera pas juste des arcades. Fait qu'évidemment, on lui a demandé qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire, là.
Mais j'ai vu une machine à coke sur les photos, en tout cas.
Ben, tu vas pouvoir boire du coke. Yeah! C'est ça.
Il va y avoir des consoles, tout ce qui est rétro. On veut aller dans tout ce qui est Nintendo, Super Nintendo. En gros, entre l'Atari et le PS2, genre. On risque d'avoir quand même des soirées qu'on veut organiser, des affaires un peu plus tournois de Wii U, des trucs du genre. C'est sûr qu'on va s'avancer là-dedans. Mais en gros, ça se trouve vraiment dans cette coin, dans cette range-là.
OK.
Probablement que là, je spoil name quelque chose, je vous annonce déjà quelque chose
des
chez
primeurs,
vous,
oui,
des primeurs. Mais je l'annoncerai pas, mais si ça vous tente que je vous l'annonce, réinvitez-moi ou demandez-moi d'abonner dans à peu près un mois. Juste okay, un salaud de même. Hein?
Fuck it, on invite son partner la prochaine fois.
Ouais,
c'est parce que je peux pas annoncer tout de suite quelque chose, mais on veut, après notre ouverture, environ un mois après, on va annoncer quelque chose de gros aussi qui va joindre à notre activité.
Ça, c'est en direct, c'est pas sur l'enregistrement.
Non, les teasers, moi.
Parce que je l'ai laissé dans le segment, parce que je voulais vraiment qu'on établisse pour tout le monde que c'est une crise d'agace.
Ouais.
Fait que maintenant que c'est fait.
Il veut vraiment comme tellement revenir qu'il s'invite lui-même sur le podcast.
C'est malaisant.
Ouais, quand même.
Parce que ça existe, le mot malaise. Hein?
Ah oui, ça existe. On le saura.
On a établi ça. Puis de fil en aiguille, ben, en parlant des arcades puis de jeux comme ça, ça a évidemment mené à une discussion sur nos jeux d'arcade préférés.
J'ai pas joué des tonnes à des jeux d'arcade. Je dirais que dans les jeux auxquels j'ai plus joué, puis on en a déjà parlé sur le pod, c'est les Guitar Freaks. C'est peut-être ceux auxquels j'ai plus joué là, dans ma vie courte de joueur d'arcade.
Seul moment dans ma vie où j'ai joué avec une guitare qui avait un manche 2 pouces et demi d'épais. Là. Sérieux, c'est quoi cette niaiserie-là là? Je jouais pas de guitare à ce moment-là, mais j'étais comme, OK, that's fine. T'as mal à la main parce que tu tiens ça. Puis t'es comme, Chris, pourquoi qu'il est 2 pouces d'épais le manche de cette guitare-là? En tout cas.
Mais ouais, parce que j'ai pas beaucoup joué à des jeux d'arcade dans ma jeunesse. Manque de fond. Puis rendu à cette époque-là, il y avait un peu plus.
Voilà.
Pas de Jeff?
Ben, mais c'est sûr, on a parlé de Point Blank un peu tantôt. C'est un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Là. C'est un des seuls jeux, je me rappelle, de maintes et maintes fois être allé. Puis c'était facile de faire le tour, puis de s'investir dedans. Puis il était vraiment bien, bien, bien fait. Là. Autant le 1 que le 2, ça m'a vraiment marqué. Mais sinon, c'est sûr, toutes les Time Crisis, puis ces choses-là, avec la pédale, puis se pencher, que tu peux jouer à deux, chacun dans ton écran. Fait que t'avais un petit côté où tu peux t'entraider. Ça, c'était cool en gang. C'est le trip de. Hey, on y va, en chum, on s'en va jouer à l'arcade, puis on s'en va jouer à Time Crisis.
Ce qu'il y a dans Time Crisis, c'est qu'ils te mettent comme chaque barre d'une pièce, là. Puis là, tu vois que l'autre, il se lève. Ouais. Ça, c'était écœurant. Ah, ouais.
Tout ce feeling-là, c'est des super bons souvenirs.
Ah, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on cherche dans Time Crisis. Ça serait vraiment le fun. C'est massif, pas évident. Hein. C'est massif, premièrement. Vu que l'écran est très, très grand, un écran CRT de cette qualité-là, c'est difficile à réparer, c'est difficile à trouver. On en a vu des machines, mais il y avait beaucoup de réparations à faire. Peut-être que dans le futur, si justement ça fonctionne bien, on pourrait investir dans une machine comme ça. On risque d'avoir aussi tu sais, les fameuses grosses télé, que c'est un meuble, là. On va en avoir une grosse télé projection 54 pouces, là, genre, qui va peser une tonne.
OK, ouais, les DLP, là, les rétroprojections.
Exact. Fait que ça va être vraiment classique.
Je pensais que tu disais les grosses TV en bois. quand on était kids. Là,
pour gros. Jouer sur une télé hyper rétro à tes jeux rétro.
Ben, il y a quelqu'un qui s'en a proposé une, d'en avoir une, mais là, j'ai comme fait, OK, là, on va jouer RF ou bien avec des petites, les petites pins là, qu'on place avec la vis. Là.
Je pense que j'aurais un choc post-traumatique de tomber devant une télé comme ça, parce que celle qu'on avait à la maison, chez ma mère à Berthier, est morte pendant que je jouais à Sesame Street au NES.
Non.
Ben, juste comme...
Il y a ça comme l'histoire.
Maman!
Non.
Tu sais, quand l'écran fait comme...
Pour une dernière fois.
Regardez de l'histoire, c'est Sesame Street, ça pète des TV.
Oui, voilà. Je suis toujours pas compté à cause de ça. J'ai jamais fini ma game. Fait que... En fait, jeu préféré en arcade, c'est sûr que ce serait Drum Mania, parce que j'ai tellement joué à Drum Mania pour rejoindre finalement un petit peu Guitar Freaks. Mais je me suis des ampoules dans les mains, là. J'ai joué à ce jeu-là. Mais la machine qui m'avait...
Traîner tes propres baguettes.
Oui, ben, t'as pas le choix. C'est avec les barrures en métal qu'il y avait après ça en arcade. Ouais,
attaché après la machine.
Ça avait pas de sens, là. Mais la machine qui m'a le plus impressionné, c'était... Je suis sûr que je me trompe sur le nom, là, mais c'était Police Simulator 911 ou quelque chose comme ça. C'était une machine de Konami qui avait une espèce de frame en métal, là, une espèce de cadre de porte, si on veut, qui était une série de sensors qui était capable de voir où est-ce qu'on était par rapport à la machine. Ce qui faisait que t'avais un gun, puis tu pouvais bouger, mais un moment t'étais dans un bar, puis tu fais te pencher en dessous des tables pour tirer le monde d'un jambe. Fait que c'était un shooter sur rail, là, comme les autres, là, comme les House of the Dead et tout ça. Mais t'avais ta liberté de mouvement en deux dimensions, finalement, en plus de ça. C'était mauditement impressionnant comme machine. Puis c'est ça, on n'a jamais pu avoir ça en maison, on s'entend, là, ça se reproduit pas.
Ouais, j'ai joué à ça. Oui, puis justement, ben, l'absence de l'espèce de pédale, justement, comme dans Time Crisis, fait en sorte que toi, t'évitais vraiment les balles par toi-même à cause de ça. Ouais, je me rappelle de cette machine-là.
Mais toutes ces machines-là qui avaient des périphériques là, spéciales, t'sais, les jeux de moto, ce que tu conduisais à la moto, puis tu te penchais ses côtés, tous les jeux de course là, avec le cockpit, il bougeait, ça l'ajoutait quelque chose. C'était ça l'intérêt d'y aller.
Il y a bien des gens qui nous poquent à avoir justement comme des Guitar Freak, des Dance Dance, des choses comme ça. On y pense, mais c'est parce que le problème là-dedans, c'est l'espace. Deuxièmement, le son aussi que ça fait. Fait que tu sais, si le son de la machine de musique ici en terre, le son de l'autre là-bas, ben ça devient malheureusement quelque chose qui est difficile à gérer. On dit pas non dans le futur, mais pour l'instant, c'est plus années 90, c'est un peu plus, tu sais. Ouais. Oh, même 2000, dans certains modèles. Fait qu'on veut plus se retenir un peu en arrière.
Puis évidemment, on vous réservait une petite surprise pour la fin. Fait que je vais laisser le Mathieu du passé vous détailler tout ça.
Il était plus le fun, celui-là.
Fait que là, vous vous demandez, mais voyons donc, pourquoi est-ce qu'ils nous parlent tous de leur jeu d'arcade préféré? Mais ce n'est pas innocent. En fait, c'est pour votre propre bien. Dans le fond, on aimerait ça que vous aussi, vous nous partagiez c'est quoi votre jeu d'arcade préféré. Partagez ça avec nous. On a mis un questionnaire en ligne sur le site de Divan Quest, qui va être aussi partagé sur les médias sociaux, également sur la page de Two Players Mode.
Yes. Oui, c'est sûr.
Puis, on va vous faire tirer. Hein, qu'est-ce qu'on peut gagner si on partage?
Ouais.
Ben justement, avec nos amis de Two Players Mode, on va faire tirer deux certificats cadeaux de 60$ dans la boutique de Two Players Mode. Fait que ça, pour les maniaques de rétro, ça vous donne du choix en masse. C'est sûr que de quoi votre goût. Fait que, ben merci à Steve.
Ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Merci à vous autres.
Ça me fait du plaisir.
Oh!
Ben oui! Vous,
ouais, mais plus que de voir sa face. Non. Et je pointe avec Jeff.
On risque de se revoir parce que c'était comme réinvité.
Non, c'est ma stratégie numéro un.
Check! Et voilà. Fait que c'était le contenu de l'entrevue. Ça a été fort sympathique. C'est sûr qu'on va remettre ça. Peut-être, pas, avec, peut-être pas avec lui.
Donc, on a parlé un petit peu là, en début d'épisode. Dany, on a eu la même addiction depuis une semaine. On joue à Overwatch. évidemment, honnêtement, c'est le seul jeu auquel je me suis adonné cette semaine. Donc, je me suis.
Mais t'as quand même écouté
j'en parle pas.
10 Inch.
J'ai pas écouté.
Oh, 10 Inch Mutant.
Okay. Il y a un remix à Toontem.
Sweet.
Parodie. Ça vaut la peine d'être écouté.
Je vais venir à Overwatch.
On va le partager sur les médias sociaux.
Je ne crois pas.
Donc, Overwatch, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? C'est un jeu qui est mainstream. Seulement, on essaie de parler. J'essaie surtout de parler de jeux un petit peu différents.
Je parle de Division puis Destiny.
Ouch! Shots fired!
J'ai jamais parlé de Destiny.
Non, mais j'espère que tu vas en parler, par exemple, sinon le podcast va être court en crise.
pour ceux qui ne connaîtraient pas, si quelqu'un vivait sous une roche depuis la mi-mai, Overwatch, en fait, c'est un jeu de tir à première personne qui met l'emphase sur le gameplay coopératif puis l'utilisation d'une palette variée de héros qui ont chacun leur propre rôle puis leur propre habileté. C'est développé par Blizzard. Donc, évidemment, comme c'est un jeu de Blizzard, l'aspect visuel, c'est super soigné, mais ça reste quand même dans la palette cartoon. Donc, le jeu est super beau, mais on a le look de tous les jeux Blizzard-esque.
Ouais, qui vieillissent généralement mieux à cause de ça, souvent. Là.
Si l'on parle d'un jeu qui joue juste en ligne, donc il n'y a pas de campagne solo, et pas puis pour l'absence de campagne solo qui fait peur à tout le monde, que les joueurs crient à tue-tête que c'est un scandale.
Merci, public.
Merci, public. Ce jeu-là, qui se vend pourtant, la version que j'ai achetée, qui est une version bonus qui vient avec un costume différent pour 3 ou 4 des héros, là, qui se vendait 79,99 sur le PlayStation Store.
Excusez, ça fait mal.
Avec l'absence de campagne, tout ça, étrangement, j'entends personne crier que c'est une mauvaise chose. Donc, il y a beaucoup à dire de Blizzard et de l'amour peut-être des joueurs vers cette compagnie-là. Là.
Je reprends la balle au bon là, pour que le monde fasse pas comme... Fucking jeu bien trop cher, de la merde, je skip en avant d'une couple de minutes. Là. Ça, c'est la version là, Origin Edition, je pense qu'il appelle,
ouais,
qui est aussi disponible sur PC. Mais la version de base, mettons, sur PC, est 40 US, mais 40,
c'est quand même... Une cinquantaine de piastres.
C'est bon. Ça, c'est quand même plus gérable que 80. Là.
Mais on parle d'un jeu qui était à l'origine censé être un jeu free-to-play. Blizzard a pris la décision de ne pas aller vers le free-to-play avec les contenus le payant qu'on peut payer régulièrement, puis de vendre le jeu à plein prix et de laisser toutes les prochaines expansions, personnages et maps et tout ça, et modes de jeu totalement gratuits pour ceux qui ont le jeu.
Puis j'ai pas entendu personne trouver que c'était une mauvaise décision. Là.
Non. Non. Les seules microtransactions, je m'excuse si je te le coupe, puis t'es là peut-être, c'est des trucs comme visuels, des trucs
ouais, ce les loot
esthétiques,
box,
là, qui est comme zéro, c'est zéro nécessaire.
Ok, mais puis de toute façon, en jouant, on les débarre. Fait qu'on peut, tu sais, si on veut une couleur différente pour le costume du personnage, il y en a qui reskinnent au complet, là, qui refont le modèle au complet du personnage. Ça, c'est, il y a des raretés, là, c'est un peu comme les cartes là, quand on joue Hearthstone. Mais c'est quand même possible de les avoir au hasard dans les paquets. Fait qu'il n'y a pas besoin de payer pour le jeu. Quand même, c'est un jeu qui joue juste en ligne, il n'y a pas de campagne. Puis même si le jeu ne perd pas de temps vraiment à nous transmettre l'histoire des personnages ou le contexte du jeu, il y a clairement une histoire assez riche qui est caché derrière, malgré que l'approche soit assez simpliste au niveau du jeu. Donc, comme le jeu ne nous la raconte pas, je vais vous la résumer rapidement. Donc, on est dans un futur proche, quelques années après la fin du conflit global qui a été nommé Omnicrisis, et qui avait placé l'humanité sous la menace Dominic, une intelligence artificielle qui avait soulevé les robots partout à travers le monde afin de combattre leurs créateurs. Pour mettre fin au conflit, un groupe avait été créé par les Nations Unies afin de protéger l'humanité, qui se nomme l'Overwatch. Donc, durant des années, Overwatch a œuvré en tant que gardien de la paix jusqu'à ce que des allégations de corruption et des insinuations qui rattachant le groupe à des activités criminelles ont miné la confiance de la population face à l'organisation.
Un peu comme Sam Ahmad, finalement.
Fait que l'histoire, dans le fond, c'est comme The Incredibles rencontre Sam Ahmad.
C'est ça.
C'est ce que j'ai compris, moi.
Fait que si ça vous intéresse...
Il y a des personnages féminins aussi, fait que Nathalie Normando.
C'est-tu elle qui a fait un scandale sur le cover du jeu?
Ouais, c'est... Non.
Après, on revient à l'histoire. Après la destruction, supposément accidentelle, du quartier général d'Overwatch, durant laquelle les deux leaders de l'organisation ont été tués, mais le groupe a éventuellement été dissous. Mais les rumeurs courent qu'il s'agissait depuis le début d'une conspiration élaborée par ceux qui cherchent à mettre fin à l'Overwatch.
Donc,
c'est la prémisse du jeu dans lequel on se lance. Le jeu, c'est d'ailleurs le successeur spirituel d'un projet qui était annulé par Blizzard, qui s'appelait Titan. Titan, c'était à l'origine un MMORPG, puis ça se voulait être le prochain World of Warcraft, en fait. Donc, c'est Blizzard qui travaillait sur la suite. Quel jeu en ligne massivement multijoueur va prendre la relève après World of Warcraft? Cependant, les développeurs ont dit qu'ils n'ont pas trouvé le facteur fun, ils n'ont pas trouvé le plaisir dans ce qu'ils développaient dans le jeu puis dans les mécaniques qu'ils avaient implantées. Puis, ils ont choisi de recycler leur univers puis leur personnage dans ce qui se retrouve à être aujourd'hui Overwatch.
Parce qu'ils trouvaient que tuer des Space Rats au lieu des Goldshire Rats, c'était dope.
Le gameplay, ça se veut une sorte d'hybride entre Team Fortress et League of Legends, pour ceux qui connaissent. Donc, un shooter qui joue en équipe avec des classes et League of Legends, où on a plusieurs héros là, différents qui ont des noms et des personnalités différentes. On retrouve deux modes de jeu principaux dans le jeu, soit assaut-défense où il y a une équipe qui doit attaquer des zones, un petit peu comme les, pour les fans de Call of Duty, les dominations et tous ces modes de jeu-là. Puis l'autre mode de jeu, c'est escorte, donc où on doit escorter, oui.
Un fort d'escorte?
Un fort d'escorte.
Il semble que je recycle des jokes.
Non, non, c'est juste qu'il faut réussir à marcher Sainte-Catherine complètement d'un bout à l'autre.
Sans rencontrer d'escorte.
Sans rencontrer d'escorte, ouais, il faut les éviter.
Ou rouler sur Sainte-Catherine sans que ton fort d'escorte te lâche.
Escorté par des héros avec des guns.
Hashtag Needpool.
Je pense qu'on a fait le tour.
on doit escorter là, un véhicule, ce qu'on appelle le payload, d'un point A à un point B à travers la map, et l'autre équipe doit tenter de nous en empêcher. Même si c'est assez simple, le level design est super efficace. Les différentes habiletés des personnages rendent les déplacements à travers les maps puis à travers l'environnement super fluides, super intéressants.
Puis il y a de nombreuses maps. Tu sais, ça a beau avoir comme deux modèles de base de jeu, c'est pas genre une map pour chaque puis c'est la même affaire tout le temps.
Puis il y a des hybrides aussi, les modes de jeu. Il y a des map où c'est un mode de jeu escorte, mais où tu dois attaquer une zone, puis une fois que tu possèdes la zone, l'escorte débute. Donc, comme ils font des hybrides entre les deux, ben, ça devient quand même intéressant. Mais pour revenir au mode de déplacement à travers l'environnement, il y a des personnages qui ont des grappins, la téléportation, tu peux sprinter, les jetpacks, ça apporte tout plein de disponibilités de jeux différentes, puis ça force l'ennemi à s'adapter aux différentes stratégies là, qu'on va apporter. Puis, stratégie, c'est le mot-clé pour les joueurs d'Overwatch, parce que c'est super important. Il faut voir les 20 personnages du jeu comme des armes et qu'on va changer régulièrement. C'est pas un personnage que je vais jouer pendant le 10 à 15 minutes que la partie va jouer. On va changer à toutes les minutes, à toutes les vies de notre personnage pour s'adapter aux différentes situations. On n'est pas obligé, mais pour s'adapter aux situations qui vont arriver. Donc, il faut adapter la composition de notre équipe en fonction des tactiques de l'équipe adverse. Comme par exemple, s'il y a un bastion qui bloque l'accès à une certaine map, bastion qui est un personnage qui peut devenir une tourelle là, sur pied, puis qui est extrêmement fort. Donc, on va aller chercher d'autres personnages qui vont pouvoir le
mais trois
le
plus dans le dos. Puis...
Ouais, c'est ça, mais il faut se rendre. Donc, les 20 personnages qui sont disponibles, il y a beaucoup de flexibilité pour tester différentes approches. J'ai affronté un groupe hier qui jouait en défense, dans un mode assaut défense, puis qui ont joué avec 6 Torbjorn. Torbjorn, c'est un nain qui construit une tourelle. Donc, c'est une team super poche, mais il y avait des tourelles partout. On s'attendait pas à ça. On a perdu assez rapidement. On n'a jamais sorti de notre farm. Fait que c'est la première fois que je voyais ça, mais chapeau à l'équipe qui ont décidé de faire ça. Ils l'ont bien fait. Puis ça amène cette dynamique-là où on peut apprécier le travail des autres joueurs. Mais je trouve ça intéressant. Les 20 personnages sont tous intéressants. Évidemment, on se découvre une familiarité pour certains, mais ils ont tout un look qui est distinctif, même s'ils conservent une cohésion entre l'ensemble des personnages. Mais chacun se joue totalement différents les uns des autres. Il n'y a aucun élément de gameplay qui se ressemble d'un personnage à l'autre.
Il n'y en a pas deux que c'est comme « Ah, c'est le même personnage, ils ont changé le nom des habiletés. »
Vraiment, vraiment pas. Il y a quatre types de personnages, en fait. Les personnages d'offense, les personnages de défense, il y a les tanks puis les supports. Puis, donc, il y en a quatre dans chaque sort, cinq dans chaque sort.
Ils sont clairement définis comme étant les
dans les champs de sélection, tu as les quatre catégories, si on veut, qui sont directes là.
Exactement. Même que quand, sur l'écran de sélection, tu as comme un 20 secondes pour sélectionner ton personnage. Puis le jeu te dit, dans l'équipe, il n'y a aucun tank présentement.
Oh, cool.
Ouais, ils donnent des hints.
Tu n'es pas obligé de t'en servir. Des fois, tu veux faire une stratégie différente, mais il y a des hints pour une équipe balancée.
J'aurais quand même voulu voir les hints pour l'équipe de 6 Torbjorn.
Il n'y avait pas grand-chose à faire du support.
You dumbasses.
Mais dans une même catégorie, les 5 personnages de catégorie se jouent totalement différemment, puis ils n'ont presque rien en commun. Ceux, toutes les tanks vont avoir beaucoup de points de vie, mais si je prends Diva, qui est une petite fille dans un gros mec,
qui est donc une fan favorite automatiquement.
Ben vraiment, c'est une de mes favorites. Bon. Mais qui, quand elle meurt, quand tu te fais tuer par les autres joueurs, tu meurs pas, elle sort par en arrière de son tank, puis tu peux continuer à jouer à pied. Puis si tu réussis à avoir ton habilité Ultimate, ben, elle peut rembarquer dans un nouveau mec.
Oh, c'est cool.
Mais à pied, elle a comme pas de point de vie.
Ben non, elle fait pas grand-chose. J'ai été capable de surfer là, des games complètes de 10-12 minutes sans jamais mourir, juste parce que je changeais de mec à toutes les fois, puis je faisais
Mais c'est une stratégie avec elle. Ton mec, tu peux le pitcher, le faire exploser toi-même. Ah, j'ai un mec de prêtre, m'a pitché celui-là, il va exploser dans le top, puis il m'a ressommonné un.
C'est cool.
Fait qu'il y a rien en commun entre ce tank-là, Diva, puis l'autre, Reinhardt, par exemple, qui est un chevalier en armure, qui a un gros marteau dans ses mains, presque aucune attaque de distance, mais qui peut faire apparaître un shield énorme devant lui pour protéger son équipe. Donc, c'est deux mécaniques totalement différentes, mais des personnages qui ont finalement en commun le fait qu'ils ont beaucoup de points de vie puis qui sont difficiles à tuer.
Ils ont un rôle semblable.
Oui, c'est ça. Ce qui est super bien, c'est que malgré toutes les différences, tous les personnages sont super faciles à apprendre. Il y a un bouton qui contient le D-pad de gauche. Il y a comme un overlay qui apparaît par-dessus le jeu qui va t'expliquer les 3, 4 ou 5 habiletés de ton personnage. Puis c'est super bien expliqué, c'est rapide. Donc, habituellement, là, tu prends un personnage que tu n'as jamais joué avec, après 2 minutes, tu le connais, tu le maîtrises, puis tu peux jouer avec.
Tu as un contrôle de base du personnage. Oui. Maîtrise, ça va.
Il y a des stratégies avancées, il y a plein de choses que tu tu ne maîtriseras pas tout
mais
de suite.
Mais tu es capable de faire quelque chose avec.
C'est ça, tu vas avoir du plaisir quand même avec le personnage. Là. Mm-hmm. Honnêtement, je pensais pas triper autant, mais c'est le jeu qui occupe tout mon temps, sérieusement. J'ai hâte d'y revenir à chaque fois que je vais aller jouer. C'est probablement le plus grand compliment que je peux donner à Overwatch. Là. C'est un jeu qui respecte mon temps.
Mais, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais moi, des shooters, des FPS, je suis pas un grand fan. Mm-hmm. Les quelques-uns que j'ai joués dans ma vie, c'est parce qu'il y avait une histoire écœurante qui me faisait embarquer dans le mode histoire. Mais Overwatch, j'ai embarqué parce que...
Puis il n'y a pas de story mode. Il y a une histoire, mais il n'y a pas de...
Ouais, j'ai rien, c'est un de mes points que Blizzard Fanboy va amener, là, qui mm-hmm. m'a fait un peu triper sur le jeu avant qu'il arrive, sur le concept, si on veut, du jeu. Mais bref, non, j'ai aimé le gameplay. Même si, mm-hmm. si c'est pas parce que je suis embarqué dans un story mode intéressant, il y a quelque chose là-dedans qui, comme tu dis, là, c'est facile de commencer à jouer même si t'es pas très bon, puis moi je suis pas très bon. Puis dans un podcast que j'écoutais, quelqu'un a dit jouer avec des amis. Puis ce qui a fini par faire que j'ai joué, c'est Guillaume qui m'en a parlé. Il dit ouais, je joue Overwatch. Oh. Tu sais, je connaissais le jeu, là, il m'apprenait rien. Ok, j'ai le goût de jouer à Star, tu sais.
Mm-hmm. Ouais. Puis. C'est sûr que jouer avec des amis, c'est beaucoup mieux parce que si tu peux te parler avec une équipe... La différence, si tu joues avec une équipe au hasard contre une équipe qui se parle, tu ne sais pas qui se parle, mais c'est clair. Les sont beaucoup plus coordonnés. Ils adaptent leurs équipes en fonction des choix de ton équipe. Puis on perd presque systématiquement, c'est pas facile.
Tu parles tout seul de son bord avec un,
non, c'est ça.
Un bonhomme pas de vie. Puis
Mais juste au niveau de la notion du temps, c'est vraiment... Une partie, ça dure entre 12 et 15 minutes. Le temps entre chacun des matchs, c'est maximum une minute. Là. Donc tu finis un round, une minute après le round, t'es en train de rejouer tout de suite. Donc il n'y a jamais de downtime, ça l'arrête jamais. C'est pas temps d'aller pisser. Parce que si tu déposes ta manette, je pense que c'est comme 30 secondes, tu bouges pas, il y a un message qui apparaît, puis après 15 secondes, t'es kick-out. Donc, la game va pas ralentir parce que t'es pas en train de jouer. C'est du jeu, du jeu, du jeu, du jeu. Blizzard ont clairement compris que la force de leur jeu, ça se situe dans la précision et la balance de leur mécanique, puis non pas dans la narrative. Là. Donc, il y a une narrative, mais elle n'est pas présentée en avant-plan. Il n'y a rien qui t'arrête pour la narrative, puis les mécaniques n'ont pas besoin de la narrative pour être intéressantes au travers du jeu.
Je suis entièrement d'accord avec toi, parce que quand tu dis Blizzard a compris ça, en même temps, Blizzard, leur force, c'est leur narrative dans leur jeu. Ben, à part peut-être Diablo, là,
compliqué
mais...
compliqué comme point de vue,
attends un peu, là. Je veux dire, tu vas dans StarCraft, t'as toute une grosse histoire, un monde...
Elle est toujours là, mais je connais plein de monde qui joue à tous leurs jeux puis qui s'en sac.
Qui peuvent.
Ding, ding, ding.
Qui peuvent.
Parce que le jeu est bon.
Mais oui.
C'est ça.
Mais voilà, c'est le mix des deux. Moi, ce qui m'attire dans les jeux de Blizzard, c'est la narrative.
Mais ils savent que leur jeu tient sur ses propres jambes sans la narrative.
Exact.
Voilà.
Puis dans Overwatch, moi, c'est ce qui m'a fait triper avant que le jeu arrive.
Ah, j'ai adoré les films. Je me sac du jeu, mais j'ai adoré les films.
Mais il y a tout un monde autour de ça. Ils ont un monde gigantesque qu'ils ont mis en place, qu'ils ont inventé, puis qui feed tranquillement, pas vite.
Il y a des bonnes chances que l'univers date du MMO. Là.
Oh oui.
Oh oui, c'est le même univers. Ils ont juste refait tout le jeu autour. Ils ont gardé le lore qu'il y avait déjà installé. Mais tu sais, si les mécaniques de Blizzard seraient pas aussi solides, ce serait pas des jeux qui seraient
clair.
Compétitivement partout au travers le monde.
Mon point était que c'est le mix des deux qui fait que. Qui va aller chercher autant de monde.
Ah, exact. Ben, c'est comme ça qu'ils rejoignent tout le monde.
Ouais. Mm-hmm. Évidemment, le jeu n'est pas parfait non plus. Le matchmaking pourrait être amélioré. La gestion des groupes est plutôt inexistante, en fait. Là. C'est difficile, surtout si on est un groupe de quatre, puis quelqu'un arrive, on est obligé de quitter la partie, de l'inviter, puis là, pour se retourner, choisir une nouvelle partie. C'est pas mm-hmm. facile. Peut-être que c'est mieux sur PC, mais l'interface
c'est la même chose. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de travailler. Les choses que tu dis là, ils le savent.
Oui, ils le savent, c'est évident, mais pour ce qui est présentement, dans ce que j'ai joué, le mode de jeu ranked, où on va pouvoir
classer,
il est pas encore disponible. Il devrait l'être d'ici deux semaines qu'ils ont annoncé. Donc, à la première patch, ils vont l'avoir. Il était là dans la bêta, mais ils ont voulu le retoucher. Mais malgré tout, je peux juste recommander Overwatch. Blizzard, ils prouvent encore une fois qu'ils sont capables d'adresser n'importe quel type de jeu, que ce soit des MMO, des trading card games, des MOBA ou maintenant un shooter, puis de se positionner comme un leader là, face à la compétition dans les domaines de ces jeux-là. Donc, je vais donner à mon divan une Frostmourne, un SCV, un Cube Aura Dream, puis un cosplay un petit peu trop malaisant de Tracer.
Ça me faisait tout bizarre que quelqu'un parle d'un jeu de Blizzard quand c'est moi le fanboy de service de cette émission-là.
Fait que tu sais comment je me sens quand t'as parlé de Shovel Knight.
Voilà. mais tu sais, juste prendre une seconde. Tu as dit ça cette semaine, que c'était malaisant, c'est qu'on parlait de nos préparations. Puis je me disais, mais...
Il n'existe pas le mot malaise.
Non, mais dans le fond, là, depuis que j'ai joué à des jeux d'enfer, puis je suis kin, que j'ai joué à Warcraft, que j'ai été Beyond the Dark Portal, qu'on a joué à Star. On a toujours joué à Lost Vikings, on a toujours joué aux jeux de Blizzard, puis on les a toujours aimés. Finalement, on est tous un petit peu des fanboys de Blizzard.
C'est clair, là. C'est...
Ouais, c'est ce que j'allais dire, si on pourrait faire le parcours complet, puis on a tout un jeu qui est exactement dans notre niche.
Oh, oui. T'sais,
de moi, Blackthorn, n'importe quand.
C'est ça, il y a beaucoup de gens dans... Il y a des podcasts que j'écoutais qui étaient ciblés sur un jeu qui sont recyclés. Je passe vite pour après ça embarquer dans mon segment.
Sure.
Puis que maintenant, ils sont un peu plus général. Puis c'est ce qu'ils disent, c'est que maintenant, tu peux jouer à tous les styles de jeu pratiquement puis pas sortir de cette fucking compagnie-là. Là. Ouais, je parle même pas d'Activision, je parle juste de Blizzard.
C'est un commentaire qui fait mal un petit peu, là, mais...
Mais d'une certaine façon...
Donc, tu peux rester toujours avec Blizzard.
Oui.
C'est ça.
Dans le sens où ils sont beaucoup diversifiés les dernières années. T'sais.
Énormément.
Voilà. Hey, dans l'univers de Divan Quest,
hey!
Aujourd'hui, 6 juin, je commence en 1882, invention du fer à repasser électrique par Henry W. Seeley. La légende dit que M. Seeley avait une envie irrésistible de se faire des toasts au fer à repasser, mais que la température élevée l'empêchait d'allumer son poêle à bois pour faire chauffer son fer. Il inventa alors le fer à repasser électrique pour enfin pouvoir se régaler d'une tranche de pain semi-toastée et bien écrasée.
C'est poche. Oui, continuez.
Je vais en 1887, où John Stitt Pemberton fait inscrire la marque de commerce Coca-Cola.
Non.
Puis rien de plus à dire. J'ai pas de joke de Coke semi-toastée. 1933, ouverture du premier Drive-In Theater au New Jersey. Hein, le concept du ciné-parc. Le concept est maintenant en voie de disparition, plusieurs ayant fermé dans les dernières années, là, étant donné les coûts très importants pour se convertir aux projections numériques. Je mets un petit sniff ici, parce que c'était un des petits plaisirs coupables.
On en avait
très bons souvenirs.
Ouais, ça, on en avait tout près d'ici, nous autres, oui. Dans la Nadière.
C'est un des derniers qui reste dans le coin très élargi, ça tient deux stages. ça peut impliquer un combo...
Ils ont encore les annonces de...
Monsieur Wing? Ouais, Monsieur Wing? Non.
Il n'est plus là.
Chef Wing, il n'est plus là.
Le chef Wing,
il n'est plus là. Il n'a pas été converti au numérique, lui.
C'était un chef analogue.
Je m'en viens en 1944. Donc, 6 juin 1944, débarquement allié en Normandie.
Colonel, nous avons besoin de quelques hommes pour une opération suicide en Normandie.
Encore une mission pour ces courageux Canadiens.
Hey, tu vas en avoir pris du matériel d'RBO dans ce podcast-là.
Je vais recevoir une facture. 1984, Alexei Pazitnov complète la première version fonctionnelle du jeu Tetris. Tetris a donc aujourd'hui 32 ans.
Mm-hmm. J'étais à 2 jours de la naissance de Tetris.
Quand même. C'est toi qui l'as inspiré et l'as travaillé 2 jours non-stop.
Ouais, ouais.
C'est aussi vrai que mon affaire de fer à repasser.
Quoi? Mon Dieu, ma réalité s'effondre. OK, continue.
1995, le LA Times annonce que la bibliothèque du Vatican sera mise en ligne sur un site financé par IBM et tout le monde s'en fout. 2012, passage de Vénus devant le Soleil pour la dernière fois du 21e siècle. Il sera donc maintenant impossible d'entendre...
On vient pas juste de l'entendre.
Oui, mais c'est la dernière fois avant 2117.
Ah, okay. Excusez.
Hey, j'étais fatigué cette semaine. Je ne peux pas dire.
Happy birthday to you.
Je regarde la nouvelle que l'on va dire. Puis, ouais. 1898, Ninette de Valois. Une danseuse irlandaise et fondatrice de Saint-Félix-de-Valois. C'est en son honneur. C'est en son honneur que le 6 juin, chaque habitant du village doit danser le ballet pendant 15 minutes. En passant, rien de tout cela n'est vrai.
I'm your Venus.
1950, naissance de l'actrice québécoise Pierrette Robitaille, connue pour ses rôles pleins de profondeur dans des grandes productions comme Ding et Dong le film ou Idole instantanée.
Oh, c'est cheap, ça.
Mais non, c'est une excellente actrice. Oui. Comme d'habitude, je cible les affaires les plus ridicules que je peux trouver. 1956, naissance de Bjorn Borg, un joueur de tennis suédois ayant inspiré Gene Roddenberry pour la création de cette race.
We are Borg. You will be assimilated.
Resistance is futile.
Plus ça va, puis moins j'assume mes gags poches. J'avance en 1963.
S'il te plaît.
Naissance de l'ancien journaliste et maintenant politicien Bernard Drainville. Bernie aurait bien aimé pouvoir dire aussi en 2013 alors qu'il pilotait le chaud dossier de la Charte des valeurs.
Aïe aïe.
1968, naissance de l'auteur et scénariste François Havard. Il a été co-auteur là, sur un paquet de shows très drôles, dont les très connus Bougon. En passant, si M. Havard ne sait pas quoi faire, là, on serait très heureux de l'avoir comme auteur sur Divan Quest. On n'est peut-être pas riche, on peut sûrement arranger quelque chose là, s'il accepte d'être payé en bouteille vide.
Surtout en regardant tes gags de cette semaine.
Oui, ouais, j'ai besoin d'aide. C'est un cri à l'aide.
Frank, lâche mes cordes.
Je continue en 1976 avec la naissance de l'actrice québécoise Julie Perreault, hein, très connue pour son premier rôle télé dans le très populaire Bébé Dragon, une présentation au Beau Dimanche où deux clowns s'occupent d'un bébé dragon qui a probablement été échappé à la naissance, là, comme en témoigne ce merveilleux extrait.
Une forme de crocodile.
Tu mangeras un beau bébé dragon.
Bébé, c'est juste pour rire.
Crocodile, pas manger bébé dragon?
Mais non, Boupita. Les crocodiles, tout le monde le sait, ça mange
du popcorn.
Mais je veux le reste.
C'est tout ce que j'ai pu trouver. Vraiment, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Parce que c'est un extrait qui ont passé aux enfants de la télé. Ça se trouve pas. C'est n'importe. C'est heureusement que le reste de ses rôles ont été vraiment, vraiment mieux que ça. Là. Pour ceux qui connaissent pas, Minuit Soir. Mettez sur pause, allez le chercher tout de suite.
Puis revenez après.
Je m'en vais au niveau gaming, pas dans les naissances, là, je reviens dans un petit peu de nouvelles de gaming. 1993, sortie du jeu The Legend of Zelda Link's Awakening au Japon, en Game Boy. Mm. Ce qui me fait penser que j'ai un game de commencer de jeu-là, faudrait bien que je la finisse. Pas celle japonaise, mais bon. 1997, un jeu qui a fait beaucoup trop triper les petits gars dans ces années-là. Je parle de Duke Nukem 3D Atomic Edition au Mac. En l'occurrence. En 2000, un jeu dont on a parlé un peu tantôt, pas sur cette plateforme-là, mais quand même.
Il y a un jeu de 10 Inch Mutant Ninja Turtle.
Oui, sorti en 2000. Non, je parle de Gauntlet Legends, qui est sorti au Dreamcast en 2000, le 6 juin. 2001, le jeu The Walmart SUV Parking Lot Challenge. Un jeu sur PC.
Sérieux?
C'est un jeu magnifique. Où tu dois aller le plus rapidement possible prendre la place pour handicapé dans un parking. Et je ne blague même pas.
Avec ton SUV.
Le lien pour le jeu sera sur les médias sociaux. C'est un jeu gratuit là, qui se download dans 3 secondes et quart.
On va prendre une pause tout de suite. Je m'en vais jouer.
2005, la sortie de World of Warcraft en Chine. Hein, avec les graphiques modifiés. Parce que c'était impossible dans un jeu en Chine de voir des squelettes. Donc, ils ont modifié, tous les squelettes ont été enlevés, puis les personnages undead, là, les skins des undead, ont été changés pour que tous les bouts d'os qui sortent un peu partout, finalement, de ce personnage-là, soient recouverts de peau. Donc, quand on parle de localisation, c'est ce qu'ils ont fait pour le marché chinois. Je termine ça avec le prénom du jour. Norbert.
Merci à tous les Norbert qui nous écoutent. À la fin du mois de mai dernier, Capcom a annoncé la sortie d'une nouvelle série animée basée sur Mega Man. L'annonce était accompagnée d'une seule image présentant le look qu'aurait le personnage dans cette série. Et bien sûr, ça faisait pas l'affaire de tout le monde sur les internets web. Ça m'a fait penser à une autre fois où les interwebnets ont été partagés sur une annonce concernant Mega Man, et c'était lors de l'annonce du jeu Mega Man Universe. Le 16 juillet 2010, Capcom a publié en ligne une première bande-annonce très cool en animation stop-motion qui se déroule dans une chambre très, très 80s, là, très 80, tapissée et décorée à l'image des jeux de Capcom. On voit un Megaman, je dirais style figurine, qui se bat un peu partout contre des ennemis classiques dans la chambre en question. Puis à un moment donné, ben, il laisse même sa place à Ryu de Street Fighter et à Arthur, le personnage principal de Ghosts and Goblins. Enfin, on voit même la version de Megaman qui est sur l'infâme pochette de Megaman 1 au NES.
Oh boy.
Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous pouvez garder ça de même, mais sinon on vous partagera ça. Qui se contente de s'enfarger en bas d'un meuble et de mourir avec le son classique d'un Megaman qui meurt. Donc, suite à cette petite vidéo très très sympathique, on a eu droit à quelques détails sur le jeu. À la base, c'est un Megaman traditionnel. Donc un jeu de plateforme d'action en 2D, ce qui rendait le concept intéressant et même en 2016, 6 ans plus tard, très d'actualité, c'est que Mega Man Universe permettait de créer des niveaux qu'on peut partager avec la communauté. Aussi, comme la bande-annonce le suggérait, on peut jouer une variété de personnages de Capcom, de confirmer avant l'annulation, là, on avait Mega Man, qui était la version redesignée pour ce jeu-là. On avait Rockman, la version classique de son nom japonais. On avait Bad Box Art Mega Man, qui était à la fin de la première pochette. À la fin du premier film. Voilà. Qu'on va appeler Bam pour le reste de cette chronique, parce que c'est long. Arthur, évidemment, de Ghosts and Goblins, Ryu, et certains des Robot Masters, là, les boss dans la série Megaman, qui étaient jouables. Chaque personnage, même les variations de Megaman, devait pas seulement être des changements cosmétiques, c'est pas juste des skins, mais il offrait des variantes sur le jeu. Par exemple, Bubam pouvait tirer juste deux balles à la fois au lieu des trois classiques qu'on a de Megaman, ce qui en faisait donc un personnage plus difficile à jouer. On pouvait également créer son propre personnage en mixant des morceaux des autres. Donc un Megaman classique avec le fusil de Bubam et un casque de Metal.
Je suis pas capable de pas rire à chaque fois que tu le dis.
Bubam. En fait, c'est Bubam parce que deux M.
Il y a deux M.
Ça, on avait le Megaman classique avec le fusil de Bubam et le casque d'un Metal. Les Metal, là, c'est les petits casques de construction jaune là, qui tirent des balles. Bref, l'idée de mixer tout ça en plus des niveaux qu'on pouvait créer, ça promettait d'offrir beaucoup de variété au jeu. Puis parlant des personnages, le look du jeu était un petit peu étrange. Puis ça a été justement la source de beaucoup de critiques sur ce qu'on a vu du jeu, parce qu'on peut pas dire de critiques sur le jeu vu qu'il n'est pas sorti. Le jeu est en 2.5D, donc se joue en 2D, mais est présenté en 3D visuellement. Les personnages sont tous sont principalement des modèles 3D. La plupart des décors sont en 2D, mais les ennemis sont en 3D. Les décors ont l'air tirés tout droit des jeux classiques, des versions Nintendo 8-bit. La plupart des ennemis ont des effets 3D, mais c'est assez subtil. Donc, on a quand même clairement le look, les chauves-souris, les espèces de cylindres. Tout ça, on les reconnaît très, très clairement avec une petite nuance d'animation 3D. Mais le personnage qu'on joue avait un look un peu plus weird, qui, en plus d'être pas super beau, contrastait beaucoup avec le décor. Ça a justement été un point de tension avec les fans. Fait que c'est facile, par contre, en rétrospect, de voir tout le potentiel d'un jeu comme ça. Parce que même en 2010, on était encore au balbutiement. Là. On était dans les toutes premières versions du monstre qui allait devenir Minecraft, qui prouvait au monde entier que les gamers aimaient pouvoir créer dans les jeux. Puis maintenant, en 2016, on est encore dans le sillon de Mario Maker. Fait que Mario Maker est loin d'être le premier jeu à offrir des outils de création de niveaux, mais il a prouvé que de créer des niveaux dans un univers où les joueurs connaissent bien les règles a un attrait énorme, puis que si c'est bien présenté avec les bons outils, ça pouvait être un jeu en soi.
Mais c'est ça, faut que les outils soient accessibles, faut pas que ça vienne comme du modding, puis que ça soit une communauté obscure qui s'y donne.
Faut que ça feel comme un jeu. Ouais. Il faut qu'il y ait comme des choses à découvrir, qu'il y ait comme une certaine jouabilité à la création de tableaux, puis c'est ce que Mario Maker a fait évidemment avec brio, puis qui a fait élever le concept. C'est pas la première fois qu'il y avait un Megaman qui nous permettait de faire de la création de niveau. On avait eu Megaman Powered Up au PSP, qui avait un très bon éditeur de niveau, puis avec des options de partage. Fait que même chez Capcom, il a fallu que l'idée ait fait son chemin. Il a fallu qu'ils disent « on l'a déjà fait, c'est le fun, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour itérer là-dessus? »
Le partage marchait comment sur PSP?
Je l'ai jamais utilisé.
Par le PSN, genre?
Ça devait être relié...
Au fond, ça marche plus.
Ben forcément, ça doit être pas mal mort, là, comme tout ce qui est sur PSP, malheureusement. Voilà. Mais bref, on a déjà une version de ça. Ouais. Puis voilà, ben on n'aura jamais pu jouer à Mega Man Universe parce que, comme j'ai déjà mentionné, ça a été officiellement annulé en mars 2011. Officiellement, le vice-président de Capcom America a dit que le développement du jeu était rendu très, très avancé, mais que collectivement, Capcom n'était pas satisfait de la qualité du produit. Certaines personnes qui ont pu essayer des versions du jeu en développement ont critiqué les contrôles. J'ai même lu ce contrôle comme du spaghetti.
Ben oui.
Pas sûr qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, ça nous donnait une idée. C'est vraiment surprenant d'ailleurs que les contrôles aient pu être aussi sévèrement critiqués. Parce que quand on regarde justement les Megaman qui ont sorti Megaman 9, Megaman 10 en style 8-bit, puis les deux remakes, donc Megaman Powered Up qui est un remake de Megaman 1, puis Megaman X Maverick Hunter qui est un remake de Megaman X, le premier, sur PSP, ces jeux-là ont tout le bon feel. Fait qu'il ait manqué autant la cible, c'est un petit peu surprenant. Il faut pas oublier aussi que l'instigateur du projet, Keiji Inafune, qui est souvent crédité comme étant le créateur de Megaman, bien que ce soit vraiment pas aussi simple, a quitté Capcom durant le développement de Megaman Universe. Puis c'est pas le seul jeu qui a été annulé par son départ, ou en tout cas autour de son départ, puisque Megaman Legends 3, qui devait sortir sur 3DS, a aussi pris le bord un peu plus tard. Puis c'est ça, c'est un autre projet qu'il avait investigué. Instigué, dis-je. Mais tout n'est pas perdu pour les fans de Megaman. Ben, à moins que vous comptiez sur Capcom pour vous donner de quoi, là, parce que dans ce cas-là, ben, vous êtes fucked. Ça fait longtemps qu'ils nous ont abandonnés. Voilà. Mais sinon, Megaman est une série forte pour bien des joueurs et des créateurs, ce qui donne des projets de fans qui peuvent combler votre manque de petits robots bleus qui fait des...
Biu, 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 biu.
Fait que je vous invite à aller télécharger Make a Good Mega Man Level Contest The Game. qui, comme son nom l'indique, avec finesse, est le résultat d'un concours de création de niveaux de Mega Man qui a 26 niveaux dans la pure tradition 8-biteuse. Bon, j'aurais dû y penser avant celle-là. En tout cas, fait que si Capcom n'est pas foutu de faire de quoi de bon avec leur plus légendaire franchise, les fans vont s'en charger.
Réflexion. Sur la semaine. On s'améliore pas, les gars.
C'est pas le but.
Ben, comme certains l'ont peut-être remarqué, il n'y a pas eu de réflexion sur la semaine dans notre épisode dernier. Non parce que j'ai cessé de réfléchir ou parce que les zombies ont fini par me rattraper à cause du manque de rigueur dont j'ai fait preuve dans la course à pied, mais plutôt parce que j'ai choisi de ne pas investir les quelques heures requises à la recherche et l'écriture d'une réflexion pendant ma préparation de l'épisode 21. Le manque de temps à Désio Gaming à cause des obligations familiales ou du travail, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans l'épisode du 1er février. On en réécoute un extrait. Bon, OK, je suis pas vraiment allé chercher l'extrait, là, mais je vous invite à réécouter l'épisode 13 si jamais le sujet vous intéresse.
Ou pas.
Cependant, c'est pas parce que je me suis abstenu d'écrire que j'ai cessé de réfléchir, en fait. Donc, j'ai quand même porté mes réflexions sur certains sujets. Et le thème de mes réflexions d'aujourd'hui, c'est donc le suivant. Chercher le bonheur ou pourquoi j'ai cessé de binge-watch sur Netflix. Le terme binge-watch, c'est défini comme étant l'action de visionner plus de deux épisodes d'une télésérie consécutivement. 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite.
Vers l'infini et plus loin encore.
Exactement. Mais ce terme-là fait tellement partie de notre vocabulaire quotidien maintenant que le dictionnaire Collins l'a déclaré mot de l'année en 2015. Netflix, Netflix rapporte d'ailleurs que plus de 75% des usagers du service ayant visionné la télésérie Breaking Bad ont complété le visionnement des 7 premiers épisodes en une seule session. Le pourcentage augmente même à 81 et 85% pour les saisons 2 et 3.
Wow!
Ouais.
Mais est-ce qu'il faut vraiment s'en étonner?
C'est des épisodes de 45 minutes.
Exactement. 45 plus minutes.
Plus, c'est vrai, parce qu'AMC, des fois,
Mais est-ce qu'il faut vraiment s'en étonner? La télévision, ça a longtemps été le passe-temps le plus populaire en Amérique du Nord, puis sans aucun doute dans le reste du monde. Mais comme dans tout ce qui nous entoure, la technologie, elle a évolué. Puis comme dans bien des cas, notre relation avec la technologie ne s'est pas adaptée aussi rapidement. On n'a pas à revenir bien loin en arrière pour se rappeler du temps où c'était encore les diffuseurs télé qui géraient les horaires de diffusion de nos émissions favorites. Puis si on ratait notre émission, on devait attendre les reprises pour savoir comment... on doit attendre les reprises pour savoir comment le docteur Martineau et le docteur Constantin allaient sauver la vie du pauvre caniche qui convenait d'emmener à la clinique à la fin du dernier épisode de Cat et Nous.
Mais quel lien incroyable avec l'épisode
c'est de Cat.
C'est vraiment un segway quand c'est un épisode plus tard.
Mais rapidement, l'arrivée des DVD, la télé sur demande et les services de streaming, ça nous a permis de revisiter avec nostalgie, certaines fois, les vieilles téléséries de notre jeunesse et les épisodes qu'on avait peut-être ratés auparavant. Mais c'est réellement en 2013, quand Netflix a pris la décision avant-gardiste de rendre disponible en ligne à la même date les 13 épisodes de la saison originale de House of Cards, que la pratique du binge-watching est devenue mainstream. Jusqu'à 2,7 millions de personnes ont visionné au moins un épisode durant les deux jours qui ont suivi la mise en ligne de la série. Ce qui est rapidement, venu supporter le pari Netflix. Les gens aiment choisir précisément quand ils vont écouter la télé, puis si on fournit suffisamment de contenu, ils vont rester rivés à leur téléviseur beaucoup plus longtemps qu'ils l'avaient prévu. On trouve toujours du temps pour nos activités préférées, puis la télévision, ça fait partie de nos passe-temps qui nous sont les plus chers. Il y a des études qui démontrent que les Américains ont passé plus d'heures que jamais au travail en 2015. Puis pourtant, les mêmes études rapportent qu'ils ont visionné plus d'heures de contenu télé que jamais.
Y a-t-il un lien à faire entre les deux? Le monde écoute la télé au travail?
Qui sait? Ou si tu travailles tant, peut-être que t'as pas tant de façon significative à donner à des loisirs qui ont...
que la télé.
Ouais, que juste t'es foiré. Là.
Peut-être. L'étude est peut-être pas allée assez loin. Mais pour faire mon point ici... alors que la popularité des services en ligne prend de l'ampleur, les codes d'écoute de télévision standard, eux, sont sur un constant déclin. On est peut-être un petit peu en train d'assister à la mort de l'expression « même bat heure, même bat chaîne ». Récemment, Fox ont annoncé le retour au petit écran de la série 24. Donc, si jamais vous étiez intéressé à vous mettre à jour dans les saisons précédentes, ben sachez que vous auriez besoin d'y dédier 6 jours et 2 heures de votre temps. Puis si vous faites partie de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir How I Met Your Mother, The Good Wife et Lost, ben vous allez devoir réserver 3 journées complètes de votre temps pour chacune de ces téléséries-là pour en visionner l'ensemble des épisodes. Si jamais 3 jours, ça vous paraît pas suffisamment important pour remettre en question vos habitudes, mais prenez le temps de considérer le temps requis pour binge-watch l'ensemble des téléséries que vous avez visionnées dans vos temps libres dans les derniers mois. Mais la notion de temps, c'est pas le seul facteur qui m'a fait abandonner la pratique du binge-watching. Combien de fois est-ce qu'on a complété le visionnement d'une télésérie qui ne nous intéressait pas vraiment, simplement parce qu'on avait déjà commencé et on était rendu à la moitié de la saison? On a souvent l'impression qu'on a investi tellement de temps qu'on voudrait surtout pas que notre temps ait été gaspillé. Ou peut-être que simplement on a une peur déraisonnable d'abandonner. De pas compléter le visionnement de la série, ça devient perçu un petit peu comme une défaite, finalement.
Moi, je te dirais que je l'ai vécu ça plutôt dans les débuts des services en ligne. Puis plus ça va, plus il y a de contenu, puis plus je fais « mais ça, non », puis « flush ».
Mm-hmm. Chapeau. Parce qu'habituellement...
Il y a des points positifs de temps en temps.
Ben, mm-hmm. Mais habituellement, la volonté là, de compléter ce qu'on a commencé, c'est perçu comme un aspect positif de notre personnalité. Mais est-ce que c'est réellement applicable à un show télé semi-décent qu'on n'est même pas certain d'aimer réellement?
Puis qu'on finit à écouter en gossant plus sur notre téléphone qu'en écoutant vraiment. Là.
Exactement.
C'est du bruit de fond.
Donc, personnellement, j'ai pris l'initiative de choisir où mon temps allait être investi et de ne pas succomber non plus à la pression sociale puis hype train qui entoure souvent la venue des nouvelles téléséries, des blockbusters ou des jeux AAA, en fait. Overwatch étant une exception.
Dis le gars qui a joué à The Division, Destiny et Overwatch.
Mais évidemment, je vais toujours continuer d'écouter certains TV shows, ne serait-ce que pour confirmer que Jon Snow n'était pas réellement mort. Spoiler alert!
Tabarnak!
Disappoint!
En Jeff?
Oui, ça, okay, oui.
Puis, je vais pas non plus me transformer en une sorte d'abomination à moitié geek, à moitié hipster qui refuse de suivre la plèbe gamers dans les 6 merveilleux univers en ligne comme des jeux comme Destiny, justement, ou comme The Subtraction. Mais depuis que j'ai choisi d'approcher
c'est
les...
Easy mode de Division.
Easy mode.
Faut juste que tu fasses le jeu plusieurs fois pour avoir des Division.
On m'a dit qu'on parlait plus de Division. mais dans le fond, depuis que j'ai choisi d'approcher les différents contenus à mon propre rythme, mais le stress et le sentiment de rater quelque chose sont seulement disparus de ma vie, puis j'en suis honnêtement un petit peu plus heureux. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est parfaitement acceptable de donner une chance à une série ou un jeu, puis tout simplement passer à autre chose une fois le temps venu, parce qu'au fond, c'est correct d'aimer certaines choses, mais c'est aussi correct que d'autres aiment autre chose. Pensez-y.
Imagine si j'avais su qu'il allait finir sur un pensez-y, j'aurais pu voler encore du stock à RV. Donc, cette semaine, en fait, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis quand même un grand fan de Super NES. Malgré le fait que j'ai pas joué à tant de jeux que ça, parce que je suis un grand fan de RPG. Qu'au Super NES, j'avais pas besoin d'avoir tant de jeux que ça pour avoir des heures et des heures de jeu, qui était plaisir à l'époque. Puis plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il y avait une parcelle de plaisir et beaucoup de grinding, selon lesquels, en tout cas, selon certains. Selon certains des jeux.
Ah, voyons. Ok.
Je suis pas certain de personne. C'est fini les attaques personnelles, là, on a eu assez dans le podcast. Quand t'as été atteint. Bref, ça reste probablement ma console préférée quand même. Puis je trouvais que ça faisait pas mal longtemps que j'avais pas jasé d'un jeu de Super NES. Puis, dans le fond, pour remplir nos obligations contractuelles, j'ai laissé Jeff parler d'Overwatch, là. Fait que j'ai laissé Jeff parler d'Overwatch, j'ai décidé de revisiter un des jeux de ma relativement petite librairie de Super NES qui risque de grandir dans les semaines et mois à venir, c'est certain. Donc, je suis revenu sur un jeu auquel j'avais joué quand j'étais jeune. J'ai choisi un jeu qui a été publié à l'époque par Konami. Deuxième fois dans l'épisode.
Mais c'était avant cette époque-là. Là.
C'était avant l'époque du Car Crash. Donc, publié par Konami, développé aussi par LucasArts en 93 pour le Super NES et Genesis. Quand même, quand j'ai reparti le jeu pour y rejouer, puis j'ai vu ces compagnies-là sortir, j'ai comme, mon Dieu, j'avais oublié que c'était quand même développé par des gros noms. C'est un des jeux que je possède depuis ma tendre enfance. En fait, au primaire, je sais pas si vous faisiez ça, vous autres, là, les gars, des genres d'emprunts croisés, là, où tu prêtes un jeu à quelqu'un, puis il prête un jeu en retour.
Puis tu le revoyais jamais.
Ben, dans certains cas. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai eu Zombies. J'ai prêté mon Mortal Kombat 2 à un dude. Il me l'a jamais rapporté. Est-ce qu'il l'avait perdu? Est-ce qu'il voulait juste le garder? Puis il m'a bullshité. Hein? En fait, c'est pas trop grave là, quand je regarde, parce que je trouve que c'est quand même pas mal le meilleur jeu que Mortal Kombat 2, à mon humble avis. Sans parler du fait qu'il vaut comme le triple de Mortal Kombat 2 à l'heure actuelle.
Ouais, ouais.
Fait que shout out au gars de Ville d'Anjou qui m'a prêté Mortal Kombat 2. À qui j'ai prêté Mortal Kombat 2. Bon, tout ça pour dire que. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, Zombies Ate My Neighbors, on va dire Zombie le résultat, là, ça commence à faire long comme titre. Puis en plus, c'est le nom en Europe. C'est un jeu d'action, un run and gun si on veut, ou court et tire, là, où on se promène dans différents tableaux, on se déplace et on tire sur des monstres. On se retrouve dans un univers qu'on pourrait appeler un univers de films d'horreur de série B, si on veut. Dans le fond, comme un de nos vieux amis, salut Tony, me faisait remarquer, on aurait pu en parler dans l'épisode d'horreur, là, mais je sais pas, j'avais trop la trouille, j'ai parlé d'un jeu pour enfants à place. Donc, on incarne dans le jeu un des deux héros, Zeke et Julie, où on peut jouer aussi les deux quand on est en mode coop, les deux en même temps. Deux ados qui doivent sauver leurs voisins, en fait, qui sont attaqués par différents monstres qui proviennent là, directement de mauvais films d'horreur. Là.
Deux ados habillés à la mode du temps avec Zeke qui a des lunettes 3D bleu et rouge.
3D bleu et rouge, ouais, c'est très très début 90s. Là. Donc, on se bat contre des zombies, des momies, des vampires, des loups-garous, des aliens, des ovnis, des maniaques à la chainsaw, des poupées evil, lanceuses de haches, un bébé géant, puis un paquet d'autres trucs. Petite parenthèse là, pour souligner le fait que c'est quand même un des rares jeux de l'époque où le personnage féminin n'est pas un sidekick ou la personne qu'on doit sauver, mais c'est un héros de puissance égale au personnage masculin. Tu peux choisir celui que tu préfères pour le look, pour le sexe du joueur ou peu importe la raison. Puis ils sont vraiment pareils. Ce qui est quand même nice à l'époque. Hashtag Gamergate, j'imagine. Donc, pour combattre les monstres, dans le fond, qui ont été créés, semble-t-il, par le méchant Dr. Tong. Il faut fouiller le manuel là, pour trouver cette information-là. L'histoire est encore moins claire que dans Overwatch. On commence avec un arsenal limité composé d'un pistolet à eau. Ouais, un pistolet à eau. Et d'un kit de premiers soins. Puis le pistolet à eau semble pas être d'eau bénite. Là. Si tu lis, c'est vraiment un pistolet à eau. Puis un kit de premiers soins.
Peut-être parce qu'il voulait juste se tenir loin, par contre, des connotations religieuses.
Pas en tout. Parce qu'il y a des holy symbols après, puis
All right.
On trouve d'autres armes un peu partout après ça qui viennent grossir notre arsenal. Des bazookas, des tomates, des popsicles, des assiettes, des ustensiles en argent, un extincteur, le symbole religieux justement qui est très efficace contre les vampires, et un coupe-bordure.
C'est ça que je me disais, le Weed Eater.
Weed Eater. Donc,
c'est hard quand tu y penses.
Puis dans le fond, l'utilité des armes va vraiment beaucoup varier avec les ennemis, dans le fond, selon les ennemis contre qui tu vas les utiliser. Genre, si tu pitches des ustensiles en argent à un loup-garou, tu le tues en un coup. Tu sais. Dans le guide d'instruction, ils disent « Have you ever seen frozen jello? » C'est comme un indice que l'extincteur ou les popsicles sont forts contre les genres de jelly evil. Tu sais. Fait que chaque arme a un peu sa particularité. Il y a aussi d'autres items qu'on peut ramasser, des clés pour ouvrir les portes, des potions magiques qui te transforment en gros monstres ou en autre chose, on ne sait pas parce qu'il y a un point d'interrogation dessus, des souliers qui te font marcher vite, des clowns gonflables.
Les souliers qui font marcher vite, ils ont-tu des lumières dans le talon?
Non, je pense pas. Peut-être en 94. Donc, puis dans le fond, chacun de ces systèmes-là aussi ont une certaine utilité, puis ils vont servir contre différents ennemis. Je continue dans le gameplay, là, dans le fond, dans chaque tableau. Le manuel du jeu parle de 45 tableaux plus 7 tableaux bonus. Quand on fouille sur Internet, il parle de 55, incluant les bonus. Je ne sais pas trop où est-ce qu'elle a la différence de 3. En tout cas,
commence à être du contenu. Hein?
Quand même intense. Dans chaque tableau, il y a jusqu'à 10 voisins qui sont dispersés et qui doivent sauver. Pour ça, il faut que tu les retrouves avant qu'ils se fassent toucher par un ennemi. En fait, ils ne se font pas toucher par un ennemi, c'était à l'autre bout de la map, mais quand tu arrives relativement proche, là, les ennemis peuvent apparaître et aller les toucher. Dès qu'ils les touchent, ils meurent. Ils ont divers skins, si on veut, des touristes, des cheerleaders, des bébés, un chef barbecue qui vaut genre 8-10 points, mais la boulette de burger vaut 100 points. Il y a un prof, un explorateur, un soldat, un dude dans une piscine sur un flotteur, un kid qui joue sur un trampoline, il y a des chiens. Bref, un paquet de voisins, là, de suburbs, de banlieues normales. En tout cas, normales quand on pense qu'il y a des zombies qui sortent de partout. Là.
Aussi normal que le contexte permet.
Ah ouais, c'est ça. Puis chacun, dans le fond, vaut des points différents. Puis ils ont même des petites interactions, là, comme il y a des tableaux où est-ce qu'il y a un cycle de jour et nuit. Puis quand on arrive la nuit, les touristes se transforment en loups-garous.
Oh.
Voilà. Si en fait, le tableau va se finir quand on a retrouvé toutes les victimes, ou en fait celles qui restent vivantes. Si une victime meurt, ben, le nombre de victimes au début du prochain tableau va être plus bas. Là. S'il y en a une qui est morte, ben, au prochain tableau, il t'en reste 9, puis ainsi de suite, là, ça descend. Donc, si toutes les victimes meurent, s'il n'y en a plus de vivantes, ou si on perd toutes nos vies, ben, c'est la fin, c'est le game over. Ça donne une certaine mécanique intéressante quand même, où ben, moins il reste de victimes à trouver, plus les tableaux sont rapides, puis entre guillemets, facile à terminer parce que ça, c'est plus rapide de trouver les victimes, mais en même temps, tu as moins de place à l'erreur. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant sur cette mécanique-là qui fait que quand j'ai rejoué, les derniers tableaux que je faisais se faisaient beaucoup plus rapidement que les premiers parce qu'il me restait moins de victimes. Mais tu sais que...
c'est que la fin arrive quand même.
La fin arrive quand même.
C'est comme une mécanique à l'envers.
Ben, c'est ça. Mais quand tu as 55 tableaux, on peut comprendre aussi. On peut regagner des victimes en ramassant un certain nombre de points, puis quand on a un certain nombre de points, pouf, il y a une victime qui réapparaît. Maximum de 10. Là, si on était à 10 victimes, ça nous donne une vie de plus. Bon, quand on a trouvé toutes les victimes, il y a comme une porte qui apparaît out of nowhere qui nous mène dans le prochain tableau. On peut quand même continuer de se promener si on veut essayer de trouver des power-ups, des choses comme ça. Les tableaux comme tels vont changer les différents environnements, la banlieue, le désert, le centre commercial, le marécage. Puis ils ont des noms aussi, les tableaux, qui pourraient tous être des films de série B. Genre, je pense que c'est le premier tableau, là, Evening of the Undead, Terror in Aisle 5 pour le premier tableau dans un champ d'action d'achat. Un de mes préférés, là, le Lumberjack Edge Maze Mayhem, qui est un exercice de diction aussi.
Ouais, qui est dans le voisinage au début aussi.
Oui, c'est dans un des premiers où est-ce qu'il y a beaucoup de haies, puis les bagages chainsaw, eux autres peuvent les couper. Ouais. Puis là, ben, toi, tu essaies de les éviter un peu. Ça, parce que
bref, ils sont beaucoup plus mobiles que toi dans le labyrinthe, puis ils te tuent très vite.
D'où l'importance des... qui les occupe. Il y a aussi des bonus level, là, des tableaux bonus qui sont un peu cachés un petit peu partout. Le premier qu'on peut trouver là, dans les premiers tableaux, c'est Day of the Tentacle, hein, qui se trouve aussi être un autre jeu de LucasArts.
Ben tiens.
Hein, un jeu d'aventure sur lequel a travaillé un certain Tim Schafer,
hey.
Hein, qui vient d'être remasterisé là, dernièrement, en 2015,
ouais.
Je crois.
Ouais.
Il y a un tableau qui s'appelle The Son of Dr. Tongue, fait que, là, c'est le fils du boss de la fin, puis qui est le méchant, qui est summoné des monstres. Merci, Emmanuel, d'instruction. Que j'ai retrouvé en PDF sur Internet avec écrit à la main à la fin des codes.
Puis c'est quoi le rôle du Dr. Tongue dans.
Summoner des monstres.
C'est lui qui est responsable de.
Qui est responsable de
d'avoir. De tout.
D'autres, si tu trouvais que dans Overwatch, l'histoire était pas présente dans le jeu, là. Moi, je te dis, l'information vient d'un manuel.
Mais c'est suffisant.
Le gameplay est là.
Et voilà.
En gros, ce qui va changer d'un tableau à l'autre, c'est la facilité aussi avec laquelle on va trouver les ennemis. Il y a aussi le gars dans sa piscine, ben, il peut pas être attaqué par la majorité des ennemis à part les monstres marins, puis il n'y en a pas pantoute au début. Fait, il y a quand même certains ennemis qui sont un peu protégés au début.
Certaines victimes.
Certaines victimes, merci. Mais la difficulté augmente quand même relativement rapidement. Là. J'ai rejoué cette semaine pour la première fois depuis un bon nombre d'années. Je me suis rendu compte quand même plus loin que je me rappelais à l'époque. J'ai vu des tableaux que j'avais pas vus. Ben, c'est certain que je me suis rendu seulement au level 15. Mais en même temps, je sais aussi que ma dextérité comme joueur a augmenté dans les dernières années. Là, quand j'avais 8 ans, j'avais pas le même coup de poignet.
Bon.
Ah, je me suis quand même rendu au level 15 du premier coup. En même temps, rendu là, j'avais comme plus trop envie de repartir ma game pour en rejouer encore parce que ben, les ennemis ont beau changer un peu, ça reste quand même très répétitif. T'sais, tu te promènes dans un tableau, tu piches des affaires sur les bonhommes, ils meurent, tu trouves les victimes. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'un peu répétitif. J'ai pas eu, par exemple, la chance d'essayer le mode coop. Puis il paraît que vraiment, c'est là que le jeu a une méchante belle profondeur. On joue les deux ensemble sur le même écran, en fait, puis ça doit beaucoup aider à tuer les ennemis qui peuvent arriver dans le dos par en avant, tu sais.
Ben, c'est très chaotique à deux joueurs, puis c'est un des charmes de ce jeu.
Ben, c'est ça, c'est chaotique en même temps. Quand tu mets à tirer à deux sur genre le bébé géant, qui est un des premiers boss que tu rencontres, il doit mourir plus vite parce que moi j'ai perdu pas mal de vie.
Mais est-ce que le jeu ajuste le nombre d'ennemis en fonction du nombre de joueurs?
Je te dirais que non, les ennemis spawnent assez fréquemment général, fait que ça doit pas changer grand chose.
Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à ça, je me rappelle. Je me rappelle du look, je me rappelle c'était quoi le jeu, mais à passer les premières minutes du jeu, je me rappelle
d'être. Non, les ennemis vont vraiment comme les zombies sortent du sol à une certaine distance. Bref, les ennemis réapparaissent tout le temps. Fait que il y a ça qui doit être assez intéressant pour rendre le jeu un peu plus intéressant. Puis, ouais, bref. Puis à deux, tu dois te booster à vouloir continuer, puis alors, on continue, ça doit être le fun. Il me semble que ça serait un beau jeu d'arcade. Le jeu ne permet pas de sauvegarde. Puis ça, c'est comme un des points faibles. Il y a un système de mots de passe là, à 4 caractères qui apparaît à tous les 4 levels. C'est pas mauvais. J'ai toujours préféré, moi, la sauvegarde directe. En même temps, ben, ça fonctionne. Là, ce qui est le fun, c'est que 20 ans plus tard, t'es sûr que t'as pas un problème de batterie. Mais c'est pas pour ça, à l'époque, qu'ils ont fait ce choix-là. Il semblerait que c'est vraiment juste une question de coût de développement parce qu'ils ont développé tout l'engin qui a été réutilisé par la suite, mais ils ont développé tout le moteur dans le fond de ce jeu-là. Puis il y a un coup de développement qu'ils ont fait, on va laisser tomber la sauvegarde parce que ça serait encore trop coûteux. Mais le gameplay est vraiment amusant. Là. Semblerait, comme je me disais tantôt, encore plus quand on le fait en coop. C'est ce qui ressort souvent dans les reviews du jeu, autant des reviews de l'époque que des reviews rétro. Sinon, ce qui ressort aussi, c'est les graphiques et la musique. Graphiquement, c'est il n'y a pas de révolution là, au niveau de l'utilisation des chips graphiques de l'époque. Par contre, ils utilisent quand même très, très efficacement ce qui se faisait. De ce que j'ai vu en comparaison, le jeu de Super NES, il y a comme une petite coche de plus vive dans les couleurs que dans le jeu de Genesis. En plus que le Super NES permettait de superposer des images en transparence, ce que le jeu de Genesis ne permet pas. Fait qu'il y a une espèce de grosse barre noire à droite de l'écran avec tes items puis la map qui fait que tu perds une bonne partie de l'écran. En fait, ils l'ont écrasé, fait que tu perds pas tant d'espace, mais le jeu est moins beau parce que tu vois que les ennemis ont comme été écrasés. Là. Ils n'ont pas le bon ratio.
Il y a quelque chose qui a été sacrifié.
Ouais. Ben, c'est ça. Mais quand même, le jeu, visuellement, est très, très beau. Il y a un côté très cartoon, une palette de couleurs super vive, en même temps avec des palettes de couleurs dark mis avec, qui donnent un petit côté, un petit feel gloomy, un petit feel horreur. Puis les animations sont super fluides. Là. Quand tu vois les personnages se déplacer, puis tout ça, c'est le fun de les voir bouger parce qu'ils bougent comme des personnages de cartoon pourraient bouger.
Ils bougent de façon aussi intense que la musique.
Vraiment. Mais la musique, justement, j'y arrive. C'était un des points forts du jeu. Il y a une couple de thèmes qui reviennent. Tu sais, il n'y a pas 850 000 chansons, mais il y a quand même une couple de thèmes qui reviennent. Puis, ils sont vraiment bien composés. Ils mettent une belle ambiance. Je suis allé chercher comme trois extraits de trois thèmes parce que je ne voulais pas faire jouer la musique pendant 20 minutes, mais j'aurais pu faire jouer les 7 tunes principales du jeu. Mais on a quand même un petit dé du fil. C'est la première fois que j'aurais voulu avoir l'épisode vidéo parce que je peux voir les trois gars en train de faire du air tout, là, du air guitar, du air drum en carton. Puis,
du air face d'épée.
Tout. Ça, c'est général. Donc, ouais, la musique est quand même vraiment je la trouve écœurante.
J'attendais le deuxième morceau que tu as fait jouer, là. C'est juste à ça que je pense.
Oui, on l'entend pour dans le centre commercial, puis il est écœurant. En fait, j'aurais quasiment pu aller les clipper dans le jeu direct à la place d'aller chercher la soundtrack, parce que tu rajoutes les petits bruits de zombies, puis de victimes qui meurent. Dans le commercial, le centre commercial, la première fois qu'on voit les genres de poupées evil qui pigent des haches, puis leur bruit quand ils sortent d'une caisse de tomates, là, c'est comme. Ah, c'est...
Les petites poupées avec les couteaux, là, puis les. Ah,
ils pigent des haches d'un bout à l'autre d'écran, sont comme pas tuables, parce qu'ils sont comme des poupées, hein, bref. Niveau réception, c'est un jeu qui n'a pas été un gros succès commercial quand il est sorti, mais qui est devenu par la suite un jeu culte. Les gens ont comme découvert ce jeu-là par après. Les critiques ont généralement assez bien reçu le jeu pour les raisons dont on a déjà parlé, mais ça s'est pas vendu en batch là, quand c'est sorti. Aspect intéressant, là, à une époque présentement où on parle beaucoup de censure, de liberté de parole, là, je ne vais pas embarquer dans le débat, mais Zombie a été victime de censure de la part de Nintendo, premièrement, qui ne voulait pas de violence dans ses jeux. Donc, une des grosses différences entre le jeu de SNES et Genesis, c'est que dans la version de SNES, tout le sang, le gore, a été changé pour de la glu mauve. Fait que l'écran de Game Over au Genesis, c'est vraiment comme du sang qui coule, puis marqué Game Over là, comme en transparent. Puis au SNES, c'est comme une espèce de ooze mauve qui coule. En même temps, c'est pas vraiment moins hot. C'est quasiment plus cool que du sang. T'sais, ça ramène le côté série B un peu plus présent.
Ça a un petit côté justement cartoon, ouais. Ghostbuster, tout ça.
Ouais, c'est en lien avec la mentalité ou la vision Nintendo aussi. Là.
Ouais. Je trouve encore un peu pire du côté de l'Europe. Il y a des comités de censure qui sont penchés sur le jeu, qui ont fait changer le nom pour Zombies. Hein, semblerait que manger ses voisins, ça serait mal vu, là.
Encore une fois, c'était tellement dans le... pour appuyer le feeling série B, là.
Ah oui. Puis les manières à la Chainsaw, qui ont l'air des... Les manières à la Chainsaw avec un masque d'or qui est là, ils ont été changés pour des bûcherons avec une hache. Semblerait que... Je sais pas, il y a de quoi comme manière à la Chainsaw. En faisant les recherches, j'ai appris qu'il y a eu un sequel au jeu, en fait, puis je savais pas du tout. J'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Ghoul Patrol.
Mm-hmm,
en fait, Ghoul Patrol, au départ, n'était pas supposé être une sequel du jeu, mais seulement qu'il utilisait le même moteur, dans le fond, pour développer le jeu, en rajoutant d'autres fonctions. Là, tu peux sauter et tout ça. Mais en cours de développement, ils ont décidé de changer les personnages pour Zeke et Julie pour en faire une suite, probablement parce que là, le jeu commençait à avoir un peu de following et tout ça. Moins bien reçu que le premier, je ne l'ai pas essayé, j'ai pas eu le temps de l'essayer ou de le trouver. Peut-être que si je le vois à un moment donné, je le ramasserai et j'essaierai ça. Semblerait aussi qu'un possible film basé sur le jeu sera en développement. Très peu d'informations là, récentes, il y a des trucs qui traînent de 2011, 2013, mais il n'y a pas comme d'annonce d'annulation. Donc peut-être un jour à suivre. Je veux dire, ça pourrait pas être autre chose qu'hilarant un film basé sur un jeu, basé sur des films de série B.
Puis un développé par qui?
Ben c'est ça, là, c'était encore dans le flou.
Si jamais tu vois Ghoul Patrol qui traîne, je te suggère de l'acheter.
Ah oui, hein, c'est ça.
Cartouche seulement, c'est évalué à 120 US.
Si je le trouve dans une vente de garage, là, pas cher.
Ouais.
Bref, en tout et partout, là, je joue vraiment bien. J'ai eu du plaisir à rejouer. Il y a quand même des chances que je décide de continuer le jeu en repognant un des passcodes. Bon, je ne les ai pas notés, là, mais ça se trouve facilement. Pour continuer le jeu, j'étais rendu au niveau 15. Là, je ne vois pas tricher. Je vais repartir à 12 parce que ça doit être le dernier. Puis, peut-être une couple de coups, essayer de me rendre à voir la fin du jeu. Surtout si je me trouve un ami là, pour l'essayer, là, ça pourrait être drôle.
De toute façon, t'es enseignant, fait, c'est sûr que dans le cours d'école, là, les jeunes ils doivent s'échanger des passcodes de Zombies in My Neighbor.
Moi, j'allais suggérer qu'on fasse un concours pour trouver un ami à Adam.
En route.
En route vers mes zombies.
Donc, ouais. Fait que si j'avais donné une note à Zombie, j'aimerais un divan mort-vivant avec deux pattes, dont la troisième a été comme utilisée pour pieuter un vampire. On a un peu de housekeeping à faire cette semaine avant de passer à la conclusion finale. Premièrement, vous avez eu un concours qui a passé sur les réseaux sociaux cette semaine pour gagner deux paires de billets pour l'arcade rétro, la rétro arcade de Two Player Mode. Donc, on a fait le tirage tantôt pendant notre petite pause à l'interne et je vous annonce les noms des deux gagnants. Donc, il y a M. Olivier Meckler et M. Simon Dumont-Laviolette. Donc, on va vous contacter par Facebook là, pour la suite des choses. Voilà, on vous en a parlé tantôt. Petit rappel du prochain concours. Donc, pour gagner deux certificats cadeaux chez...
La boutique, Two Players Mode.
Two Players Mode. Donc, le concours va être à divanquest.com/concours. Je vous rappelle la question, hein, qui ne sera pas sur la page, donc notez-la maintenant. Quel jeu est votre jeu d'arcade ou jeu avec une mécanique ou un périphérique particulier favori? Donc, vous pouvez même ajouter un pourquoi si ça vous tente. Là, j'ai laissé une réponse longue dans cette question-là. Petite parenthèse pour ceux qui vont voir, là, je l'ai marqué sur la page, on demande dans le questionnaire qui est là, votre numéro de téléphone, on ne le vend pas à personne, juste qu'on va tenter d'appeler directement les gagnants, si c'est possible, lors de l'enregistrement du prochain épisode. Voilà. Donc, rappel, encore une fois, on va être à la soirée d'ouverture d'Arcade Montréal de Two Players Mode le 10 juin prochain. Pour le 11, c'est encore flou si on va être là tout le monde, mais le 10, c'est confirmé qu'on va être là tous les trois. Donc, ce vendredi, vers la fin de notre semaine qui commence aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de venir faire un petit tour, nous dire un petit bonjour, ben on va vous donner une punition live. On va vous Sinon, mais pour les derniers épisodes, le divanquest.com, pour du feedback, du hate mail, sur Twitter, au twitter.com/divanquest, sur Facebook, au facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le www.rzoweb.com, dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com. Sur iTunes, allez commenter, cliquez les petites étoiles. Faites comme, il y a du monde cette semaine qui ont cliqué les petites étoiles. Il y en a plus qu'il y en avait, mais ils n'ont pas laissé de commentaires. Donc, désolé, on peut pas vous remercier directement, mais merci de façon générale.
Merci aux petites étoiles.
Merci aux petites étoiles. Et on se revoit dans deux semaines.